Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC la radio, RMC Story la télé. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Deux jeunes mineurs radicalisés, mis en examen et écroués pour un projet d'attentat à caractère antisémite. Opération sauvetage, l'État au chevet de Brandt, prêt à investir 5 millions d'euros dans le projet de reprise des salariés et du fabricant, fleuron de l'industrie française en danger. Et le calvaire qui se poursuit à Nice, où la violence a pris le dessus. Deux joueurs pris à partie et agressés dimanche en marge de la 6e défaite de rang des Aiglons ont décidé de porter plainte.
Et c'est encore un nouveau projet d'attentat déjoué.
Une attaque à caractère antisémite empêchée par les autorités qui ont mis la main sur des messages publiés par deux jeunes mineurs âgés de 16 ans, Guillaume Bier. Ils ont été mis en examen et incarcérés dimanche.
Oui, et c'est une nouvelle fois l'extrême vigilance des policiers du renseignement sur les messages récryptés qui a permis de déjouer ce projet. Car c'est dans une boucle WhatsApp où s'échangent des contenus terroristes que ces deux adolescents discutaient d'un éventuel passage à l'acte contre des personnes de confession juive. L'un des suspects âgé de 16 ans a été arrêté à Strasbourg. Un garçon d'origine tchétchène arrivé en France il y a 4 ans avec sa mère qui fuyait son mari violent d'après nos confrères de BFM TV. Inconnu de la justice, cet adolescent s'est récemment radicalisé. Il ne va plus en cours et consommerait beaucoup de vidéos violentes sur les réseaux. Un profil que rencontrent de plus en plus souvent les enquêteurs de la DGSI. Depuis le début de l'année, 20 mineurs ont déjà été mis en examen dans des dossiers terroristes.
La piste accidentelle écartée après l'incendie d'un bâtiment qui a tué 5 personnes le week-end dernier en Meurthe-et-Moselle. Les autorités évoquent l'intervention d'un tiers et donc la piste volontaire.
La ville de Saint-Étienne n'a officiellement plus de maire ce matin.
Reconnu entièrement coupable dans l'affaire du chantage à la sextape, Gaël Perdriau a été condamné à 4 ans de prison ferme et une peine d'inéligibilité immédiate hier. Après des années de polémique, les Stéphanois ont désormais hâte de pouvoir passer à autre chose. Reportage de notre correspondant sur place, Vincent Chevalier.
Parfait. Voilà. Donc, bon, ça c'est la bonne nouvelle du jour.
Devant les marches de la mairie, Nathalie apprend tout juste la condamnation.
Monsieur Perdriau n'a pas respecté cette population et n'a pas respecté Saint-Étienne avec sa vie et son vécu. Donc au revoir Monsieur Perdriau.
Des habitants surtout pressés de tourner la page après des années de scandale, selon Françoise.
C'est long, la justice est longue. Moi j'ai trouvé que ça avait trop duré. Il faut passer à autre chose complètement. Hein. Il faut voir autre chose. C'est la ville en a besoin.
Des Stéphanois fatigués aussi de voir leur ville ridiculisée. Maurice en a fait l'expérience.
Moi, j'étais souvent en activité sur Paris. On faisait rire gentiment, mais on faisait rire tout le monde. Des blagues du style, t'es en réunion, est-ce que tu m'enregistres ?
Pour Gilles Artigue, l'ancien premier adjoint victime de ce chantage à la vidéo intime, c'est un soulagement.
C'est en tout cas la reconnaissance de mon statut de victime. Je vois que la justice a porté des peines qui, je pense, sont à la hauteur de ce que j'ai pu endurer et de ce que ma famille a enduré.
Gaël Perdriau a fait appel de sa condamnation et continue de clamer son innocence. De son côté, le conseil municipal doit désormais se réunir pour choisir un nouveau maire par intérim jusqu'aux élections en mars prochain.
150 rassemblements partout en France, journée de grève pas ou peu suivie dans les transports, quelques perturbations à prévoir tout de même sur les régions régionales. En Occitanie ou en Île-de-France, sur la ligne C du RER, mobilisation à l'appel des syndicats contre le budget du gouvernement. S'il n'est pas encore voté, les tractations se poursuivent en coulisses à la recherche d'un compromis après le PS hier. Les écologistes, ce mardi, ce sera les représentants du RN qui seront reçus demain par Sébastien Lecornu.
Ils seront reçus demain, mais dès ce matin, Marine Le Pen est mon invitée. Notez-le, ce sera à 8h15 tout à l'heure, le face-à-face sur RMC et BFM TV.
Avant ça, un autre rendez-vous. Sébastien Martin, votre invité, Apolline, à 7h40 sur RMC. Le ministre délégué chargé de l'industrie qui se dit prêt à investir 5 millions d'euros dans un projet de coopérative pour sauver Brandt. La justice doit examiner les offres de reprise du fabricant d'électroménager demain et le groupe placé en redressement judiciaire. Parmi elles, donc, ce projet de scope proposé par les salariés. 350 des 700 emplois pourraient être sauvés, dit le ministre. Un soulagement pour les employés du site de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Près d'Orléans, reportage, Alfred Orange.
À la sortie de l'usine, devant les portiques, les salariés l'assurent à la volée.
Le moral, on l'a toujours.
Pas bavard, mais gonflé d'espoir par cette visite ministérielle qui promet soutien et moyens au projet de SCOP, dans lequel les salariés sont les associés majoritaires et qui a pour ambition de sauver près de la moitié des 700 postes menacés. Sylvain Raymond est délégué du personnel chez Brandt.
Notre objectif, c'est de pouvoir continuer l'avenir industriel du site Orléans, Vendôme et Cergy, de pouvoir continuer à fabriquer les produits Made in France.
enfance. Je pense que tout le monde chez soi, même dans sa petite enfance, a eu un produit Brandt chez papy, mamie ou même chez soi. Le fait d'avoir eu cette idée de monter une SCOP, ça a redonné un peu d'espoir et maintenant tout le monde attend des nouvelles.
Parce que rien n'est encore fait, ce projet de reprise doit être examiné demain par le tribunal des activités économiques de Nanterre qui scellera l'avenir de ce fleuron français qui a fêté l'année dernière ses 100 ans d'existence.
La réponse de l'Élysée à ses détracteurs et plus particulièrement CNews, accusé de répandre de fausses informations à propos de la proposition d'Emmanuel Macron de créer un label à destination des réseaux sociaux et des sites d'information afin de lutter contre la désinformation. Une vidéo de l'Élysée, Julien Coudreau, largement commentée et même dénoncée par de nombreux politiques de droite et d'extrême droite.
Oui, un scandale d'État pour Éric Ciotti. L'œuvre d'un ministère de l'info, selon David Lisnard, ou encore une idée dangereuse combattue par tous les démocrates cohérents, selon Jordan Bardella. En cause, donc, cette proposition d'Emmanuel Macron de créer une labellisation des médias. C'était le 19 novembre dernier.
On va tout faire pour que soit mis en place un label. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans. Parce que c'est pas ça une démocratie. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information.
Extrait du chef de l'État diffusé par l'Élysée hier soir sur son compte X dans une vidéo qui reproche aux détracteurs de cette idée, médias comme politiques, de répandre des fake news. Une vidéo qui rappelle que ce ne sont pas des politiques mais un organe indépendant qui pourrait attribuer ce label.
Emmanuel Macron qui s'est entretenu hier avec Donald Trump au sujet de l'Ukraine en marge de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Si un plan de paix n'est à ce jour pas finalisé, le chef de l'État a tout de même salué l'effort de médiation des États-Unis à l'heure où l'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer Vladimir Poutine ce mardi à Moscou.
7h06 sur RMC. Et puis la crise qui se poursuit à Nice, bien au-delà du foot. Hein.
La situation complètement délétère. Après une sixième défaite de rang à Lorient, les joueurs du club azuréen ont été pris à partie dimanche soir. Attendu devant le centre d'entraînement par plusieurs centaines de supporters, certains particulièrement véhéments auraient agressé deux joueurs et un membre du staff, Maxime Thiette. Deux plaintes contre X ont été déposées.
Oui, Jérémy Bogas s'est vu remettre une ITT, incapacité temporaire totale d'au moins 5 jours. Son coéquipier Terem Moffi est lui en arrêt de travail jusqu'à la fin de la semaine. Cela suite au rassemblement de 400 supporters dimanche soir pour accueillir leurs joueurs vers 23h. À la sortie du bus qui les ramenait de l'aéroport, les aiglons ont fendu la foule pour rejoindre le centre d'entraînement où étaient garés leurs véhicules. Bogas et Moffi ont été les principales cibles des coups, crachats et insultes. Cela s'est passé au milieu des fumigènes et d'hommes vêtus en noir avec des cagoules. Dans leur rapport, les policiers évoquent une atmosphère très hostile, mais ne rapportent pas de violence, de dégâts, de blessés ou d'interpellations. Le club, dans un communiqué, apporte son soutien à ses joueurs. L'UNFP qualifie les événements d'intolérables et appelle à la plus grande fermeté.
Nice qui jouera face à Saint-Etienne le week-end du 20 décembre, Coupe de France. Le tirage des 32e de finale avait lieu hier soir. Ce sera un club de National 2 en tente Fény-Aulnois pour le leader de la Ligue 1 Lens. Monaco se rendra au Auxerre, seul choc entre deux clubs de l'élite. Paris sera opposé au club de Vendée-Fontenoy en 5e division. Marseille ira à Bourg-en-Bresse, club de National 1. Notez à ce propos que Mehdi Benassia, directeur du football à l'OM, sera l'invité de l'After Foot ce soir de 22h à minuit sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer. Et puis du côté du face-à-face tout à l'heure, mon invité c'est Marine Le Pen, et vous êtes nombreux à nous envoyer déjà un certain nombre de questions, de remarques, de manière de l'interpeller. C'est votre cas, Nicolas, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas, vous êtes routier dans la Loire, peut-être d'ailleurs au volant déjà à cette heure-ci, je sais pas, vous
oui,
en êtes où?
Oui, c'est pour ça que je viens juste de m'arrêter, j'étais sur la route du retour.
De quel côté vous êtes?
Là, je suis à Clermont-Ferrand.
À Clermont. Nicolas, vous avez une question pour Marine Le Pen?
Oui, comme je disais, ma question est assez simple. Je veux juste savoir comment elle va faire pour appliquer son programme tout en restant dans l'Union européenne. En fait, je m'explique, on s'en souvient, en 2017, Monsieur Asselineau débitait des articles et tout. Enfin, la plupart des gens se moquaient de lui, mais le fait est là que ce qu'il avait dit est arrivé.
Sur le fait quoi? Sur le fait que l'Union européenne donnait un certain nombre de normes et décidait d'une grande part de la politique qui se passe ici, quoi.
Bah, elle décide quasiment d'à peu près tout, en fin de compte. Quand on n'est pas d'accord, on a l'exemple de la Hongrie, on se mange des amendes.
Et effectivement, ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen a évolué là-dessus, parce qu'il fut un temps où le RN, à l'époque Front National, était favorable à la sortie de l'Union Européenne. Exact. Ce n'est plus le cas. Pour autant, il y a un certain nombre de points. Hein. Par exemple, il parle souvent des ZFE, de la question de la voiture thermique. Là, c'est vrai que la date de 2035 qui a été imposée, c'est l'Union Européenne qui le fait. Merci en tout cas. Je lui pose la question, Nicolas. Et comme Nicolas, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 3216. Vous voulez interpeller Marine Le Pen, réagir, témoigner. J'attends vos témoignages. Dans un instant, mon invitée, elle a été condamnée pour avoir tenté de récupérer sa propre maison qui avait été squattée. C'est ce qui est donc arrivé à Karine Lelouch. Bonjour. Merci Bonjour. D'être en direct avec nous ce matin. Vous allez nous raconter ce qui vous arrive. La justice vous a condamné à 1 an de prison avec sursis pour complicité de violence. Vous avez embauché des hommes de main pour sortir les squatteurs de votre maison. Alors aujourd'hui, vous regrettez d'avoir embauché ces hommes de main, mais vous demandez quand même que la loi change et qu'elle protège davantage les propriétaires et un peu moins les squatteurs. Vous nous le dites dans un instant, il est 7h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Un an de prison avec sursis pour complicité de violence. C'est la peine à laquelle vous venez d'être condamné pour avoir tenté de récupérer votre maison squattée. Karine Lelouch, bonjour.
Oui, bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur RMC. En fait, vous avez embauché des hommes de main pour tenter d'expulser un squatteur de la maison dont vous aviez hérité de votre père. Ça se passe en Gironde, à Andernos-les-Bains. Vous reconnaissez que c'est une erreur, mais pourquoi vous en êtes arrivé là ?
Alors, bien sûr que c'est une erreur, hein, je le paye, hein, de toute façon, j'ai pris, comme vous l'avez signalé, 1 an de prison avec sursis. En fait, j'en suis arrivée là parce que j'ai découvert que la maison était squattée. Je suis passée par la voie légale, donc j'ai porté plainte, j'ai fait une demande au préfet pour parce qu'apparemment il y a cette loi où on peut expulser les personnes en 72 heures et tout le monde m'a fermé la porte. Les gendarmes ont même retorqué que je n'avais pas intérêt à rentrer dans la maison ou dans le terrain parce que ce monsieur était j'avais pas le droit de rentrer chez lui en fait.
Parce qu'il était devenu de fait l'habitant de cette maison.
Voilà, exactement. Donc ça a été le point de bascule d'être rejeté par l'administration, par les forces de l'ordre.
Ça vous a rendu dingue, on peut dire les choses comme ça.
Oui, on peut dire les choses comme ça, ça m'a rendu dingue, d'autant plus que moi j'avais quand même deux épées de Damoclès au-dessus de la tête, c'est que j'avais des frais de succession à régler rapidement.
Oui.
Et également une vente qui était on avait consigné le compromis avec un promoteur. Et cette vente, si elle ne se faisait pas, je pouvais pas payer mes droits de succession.
C'est ça. Donc, en fait, il y avait une sorte d'enchaînement de circonstances. Voilà. Je précise d'ailleurs que cette maison qui était donc inoccupée depuis 2020, qui a été squattée par ce monsieur, non seulement il l'a squattée, il a changé les serrures, il a changé le compteur électrique et il a même installé la fibre.
Chez
votre père.
Tout à fait. Voilà.
Donc vous écrivez au préfet, vous sollicitez la force publique, finalement rien ne se passe et effectivement vous avez à ce moment-là
pris la mauvaise décision.
On en est où au moment où on se parle, Karine? Est-ce que la maison a été libérée? Est-ce que vous avez pu la vendre? On en est où?
Alors la maison, je ne sais pas si elle est libérée. Par contre, oui, effectivement, j'ai vendu à ce promoteur au 10 octobre. Sauf que vu que la maison était squattée, il m'a fait vraiment une grosse moins-value sur la maison. Il m'a demandé 80 000 euros pour le dédommagement du fait que le squatteur soit dans la maison.
Mais vous l'avez vendu squatté,
en
quelque sorte.
Oui, c'est ça vendu, oui.
Donc vous avez été condamné et vous allez devoir payer. Le squatteur, vous devez lui payer des dommages de 1200 euros. Vous demandez à ce que la loi change. Enfin, c'est-à-dire, vous dites, quand on voit mon parcours, c'est du délire.
Oui, voilà. Parce que maintenant, moi, l'affaire, elle est derrière moi. J'accepte ma peine. Je ne ferai pas appel.
D'accord.
J'ai plus envie. Je suis fatiguée de me battre avec tout ce qui m'est arrivé. Je vais vous dire que c'est très fatigant. Et puis, je pense que je sers d'exemple et je vais servir d'exemple jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, on ne doit pas se faire justice soi-même. Mais par contre, d'un autre côté, il y a d'énormes failles dans la loi. Parce qu'elle est très, très restrictive. En fait, il faut pouvoir prouver le fait qu'il y a eu effraction. Donc, à la limite, il faudrait mettre des caméras devant les portes pour qu'on voit quelqu'un rentrer dans l'habitation. Et ça, on n'a pas forcément les moyens de le faire ou l'idée de le faire. Et parce que moi, on m'a dit que le squatteur, donc quand il a été interrogé par la gendarmerie, oui, il a dit que la porte était ouverte. Il avait trouvé une porte ouverte, donc il s'était installé. Par contre, moi, en aucun cas, que ce soit la gendarmerie ou le bureau du préfet, m'a dit, bon, madame, voilà, il a dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'effectivement la maison était ouverte ou elle était fermée? Bon, on ne m'a jamais demandé. Par contre, sur les constats d'huissier, on voit bien des serrures neuves, alors qu'on habite sur le bassin d'Arcachon. Quand elles sont récentes, effectivement, elles sont toutes rutilantes, mais
ce qui est vrai, c'est que cette petite, d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, autour de cette question de il faut prouver qu'il y a eu effraction pour rentrer, c'est aussi la faille dans laquelle se sont glissés un certain nombre de squatteurs. On avait eu le témoignage ici même de Pierre, dont le studio a été squatté par des anciens locataires Airbnb qui ne sont donc pas rentrés par effraction, qui sont rentrés tout simplement parce qu'ils avaient loué le bien pour une semaine. Merci en tout cas Karine Lelouch d'avoir témoigné ce matin sur RMC, vous qui êtes donc qui avez donc été victime de ce squat condamné par la justice. En tout cas, tenez-nous au courant s'il y a la moindre évolution dans cette affaire. Il est 7h19 sur RMC et pendant ce temps-là, l'historien d'Apolline Matin s'est glissé dans ce studio. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Apolline.
Arthur, Luigi Mangione a été présenté à un juge avant l'ouverture de son procès cette semaine. Il sera jugé pour avoir tué le patron d'une des plus grandes compagnies d'assurance aux États-Unis.
Oui, et contre toute attente, cet assassin est très soutenu par la population. Les meurtriers qui deviennent des justiciers, c'est pas nouveau, y compris en France.
Et vous nous en faites l'histoire dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est Marine Le Pen ce matin. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h19.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20, vous êtes bien sur RMC. On va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, procès aux États-Unis de Luigi Mangione. C'est cet homme qui, il y a un an, avait tué le PDG d'une des plus grandes compagnies d'assurance médicale des États-Unis. Le procès qui s'ouvre dans une ambiance un peu particulière, il faut le dire.
Oui, puisque Luigi Mangione est devenu une véritable star. Il avait justifié son meurtre en dénonçant les assurances maladies qui, je cite, exploitent les Américains. Ce discours l'a rendu très populaire auprès de ceux qui vivent dans la précarité, et ils sont nombreux aux États-Unis, à tel point qu'une cagnotte pour financer ses avocats a recueilli 1,35 million de dollars.
Ah oui, ils vont être bien payés les avocats. C'est la première fois qu'un meurtrier est à ce point starisé.
Alors non, c'est pas la première fois, et le premier du genre, c'était en fait une meurtrière, et pas un meurtrier. Nous sommes sous la Révolution française, à l'époque de la terreur, quand les révolutionnaires exécutent leurs opposants par centaines. Tout le monde a peur, sauf une femme, justement. Elle s'appelle Charlotte Corday, et un matin, elle s'introduit dans l'appartement d'un des leaders révolutionnaires les plus sanguinaires. Il s'appelait Jean-Paul Marat, et alors qu'il est dans son bain, Charlotte Corday arrive et le poignarde de sang-froid, il meurt sur le coup.
Et elle est arrêtée ?
Oui, mais pendant son procès, elle assume tout et déclare « J'ai tué un homme pour sauver la vie de 100 000 ». Après sa condamnation à mort, elle devient une martyre de la Révolution, adorée, adulée. Aujourd'hui, c'est encore le cas.
Et plus près de nous, on a connu des cas semblables ?
Ah bah oui, au début du XXe siècle, la bande à Bono fait trembler la France. Ces jeunes gangsters multiplient les braquages et les assassinats et ils s'en vantent. Pour eux, voler les riches, c'est faire la révolution. Alors sur le moment, ça n'a pas vraiment d'écho. Mais dans les années 30, on crée un mythe autour de la bande à Bono. Ils deviennent les résistants d'une société corrompue et Boris Vian va même leur consacrer une chanson.
Et puis Pierre Goldman.
Et oui, Pierre Goldman qui est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, le chanteur. C'était un militant d'extrême-gauche qui tombe dans le banditisme. En 1970, il est arrêté pour un double meurtre. Des faits qu'il va nier, mais il est quand même condamné. Sauf que Goldman était très populaire. Il est soutenu par des personnalités de gauche et pas n'importe lesquelles. La comédienne Simone Signoret, l'écrivain Jean-Paul Sartre et même François Mitterrand en personne. Deux ans plus tard, son procès est révisé, il est acquitté.
Et pour vous, on arrive à peu près au même phénomène là avec Luigi Mangione aux États-Unis ?
Bah franchement, ça y ressemble. Il reçoit des soutiens par milliers, mais faisons la part des choses. On peut penser que le système de santé américain est profondément injuste sans justifier l'assassinat des assureurs. Dans un état de droit, les criminels ne sont pas des héros romantiques, Apolline. Ce sont les ennemis de la société, des Robin des Bois en carton.
7h23, Arnaud Demange qui nous rejoint.
RMC.
De Manche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour Arnaud.
Bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure, dès 8h15, sur AMC BFM TV, je reçois Marine Le Pen, la patronne du groupe RN à l'Assemblée.
Oui, c'est un nom qui me dit quelque chose.
Oui.
Marine Le Pen. Marine, c'est pas la meuf blonde qui était à la mode avant Jordan Bardella. C'est elle, hein, c'est ça. Hein, ouais. Elle a pas dû très bien le prendre d'ailleurs, le sondage qui donnait Jordan Bardella vainqueur au second tour face à tous ses concurrents. D'ailleurs, au RN, les cadres, vous avez vu, ils sont hyper gênés. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils disent « Non, mais la candidate légitime, c'est Marine Le Pen. » Partout où ils croisent, partout où on les croise, pardon. J'ai croisé Jean-Philippe Tanguy à la boulangerie l'autre jour. Mmh. « Et pour vous, qu'est-ce que ce sera ?»« Ce sera Marine Le Pen, parce que c'est la candidate légitime. » « Ah ben, je suis désolé, j'en ai plus. » À cause des juges rouges, on en a plus. Vous mettez un Bardella aux œufs à la place? Alors à 8h30, Apolline, petit défi, faites un jeu avec Marine Le Pen. Ah. Ni oui, ni non, ni je suis la candidate légitime. Marine Le Pen, bonjour. Je suis la candidate légitime. Oh, c'est déjà perdu. Ça va venir vite. Autre chose, en ce moment, c'est le vote du budget à l'Assemblée et le Parti Socialiste. Donc c'est pas les mêmes, hésite à censurer le gouvernement. Si ça se passe mal, je suis sûr que Marine Le Pen appelle Olivier Faure en cachette dans un « Censure ! Mais censure ! Comme ça on va foutre Jordan à Matignon, on va se rendre compte qu'il est nul, je serai débarrassé de lui pour 10 ans !» Et Olivier Faure en face « Écoutez Madame Le Pen, je réfléchis. Oh la petite bête, il est pas capable de censurer !» Madame, cette technique grossière ne marchera pas. Oh la poule mouillée ! Alors elle est quand même censée avoir Matignon si Bardella passe. Après on n'est pas à l'abri qu'elle se fasse avoir, que Bardella lui refile un poste de secrétaire d'État aux chatons et aux anciens combattants. C'est pareil, hein. Ça a l'air paradoxal, mais c'est pareil.
Les chatons, les anciens
combattants. Oui, c'est pareil. Les deux, ils se lavent en se bavant dessus maintenant.
Oh non. Est-ce que... Oh, je l'avais pas vu venir.
Ben oui. Non. C'est une de honte. Est-ce qu'elle va venir à votre interview avec un chaton? Oui, oui, elle est déjà là. Mais c'est son truc. Elle devait choisir, entre un programme économique crédible et un chaton mignon. Elle a pris le chaton. Déjà, Macron nous avait fait le coup, hein, en nommant Attal à Matignon. Gabriel, fais le chaton, les gens aiment bien. Miaou, hein. Miaou, hein. Non, monsieur le président, hein, c'est ridicule. Allez, miaou, miaou, un hein, miaou, hein. Miaou, et puis ça n'avait pas tenu, en final. Allez, rendez-vous avec Marine Le Pen à 8h15. Miaou, hein.
15 tout à l'heure. Marine Le Pen qui sera donc mon invitée dans le face-à-face. Il est 7h25 et c'est déjà Noël. Mais oui, c'est déjà Noël dans Apolline Matin. Un fabuleux Noël grâce à RMC. Vous allez pouvoir ouvrir le calendrier de l'Avent tout à l'heure. À gagner des MacBook Air, des vacances, des iPhones. On a offert hier un iPhone 17, le tout dernier iPhone. Il y a aussi des PlayStation 5, une Switch 2 avec Micromania Zing. Et plein d'autres cadeaux à découvrir donc jusqu'au 24 décembre chaque jour. On ouvre une petite case. Pour jouer, c'est maintenant. Vous envoyez Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16. Le gagnant sera en direct avec nous à 8h20. J'étais trop contente de faire gagner un iPhone 17 hier. Qu'est-ce qui se cache aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent? On le verra bien. Donc Noël au 7-32-16, bonne chance à tous. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis dans 10 minutes, il faut sauver le soldat Brandt. Brandt, la marque française en grande difficulté. Les salariés ont un plan pour sauver leur usine. Le ministre de l'Industrie soutient le projet. Le ministre de l'Industrie qui est mon invité à 7h40 sur RMC. Il est 7h26, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de l'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est un incendie volontaire qui a tué 5 personnes ce week-end à 9 maisons en Meurthe-et-Moselle. Le procureur l'a confirmé hier. On sera sur place dès le début de ce journal. Un témoignage RMC ce matin de l'un des membres de la famille de l'agriculteur qui comparaît pour avoir jeté un œuf sur la tête de Jordan Bardella. Et puis après une hausse d'un peu plus de 7% l'an dernier, les prix de nos contrats d'assurance habitation vont encore bondir l'an prochain, plus 10% en moyenne selon l'UFC Que Choisir.
L'effroi est immense en Meurthe-et-Moselle.
Car au-delà du drame qui s'est déroulé ce week-end à 9 maisons au sud de Nancy, 5 personnes tuées dans l'incendie d'un immeuble, un couple de sexagénaires, leur fils de 16 ans et deux amis de la famille, très jeunes aussi. Ce sont les premières conclusions des enquêteurs qui interpellent. Julie Brault, vous êtes sur place en direct pour RMC. Et ce qu'on sait ce matin, c'est qu'il s'agit d'un incendie volontaire, mais c'est la seule information dont on dispose pour le moment.
Et oui, pour quelle raison cet immeuble de 3 étages situé en plein centre-ville a-t-il été ciblé par un incendiaire? Voilà la question qui est encore sur toutes les lèvres ce matin. Était-ce un règlement de compte, un crime lié au trafic de stupéfiants ou bien une réponse à une dette non payée par le plus âgé de la fratrie, seul survivant de cet incendie? Une dernière hypothèse suggérée par un proche de la famille qui a fait une déposition à la gendarmerie hier. À ce stade, le mystère reste entier autour de cet immeuble au mur noirci par les flammes et dont les entrées sont toujours condamné ce matin par des rubalises de gendarmerie. À l'intérieur, les enquêteurs ont réalisé de nombreux prélèvements pour tenter de retrouver une trace menant à l'incendiaire de ce bâtiment où les 5 victimes ont été piégées dans les flammes au 2e étage, alors qu'au rez-de-chaussée, un magasin vendant du CBD, composant du cannabis autorisé à la vente, est lui aussi parti en fumée.
Julie Brou en direct de Neuve-Maison pour RMC. François Hollande, victime d'un cambriolage à son domicile parisien avec sa compagne Julie Gaillet. C'était le 22 novembre dernier, on l'a appris hier. 2 hommes ont été interpellés la semaine dernière et mis en examen pour vol en bande organisée. Une montre a notamment été dérobée avant d'être restituée par les enquêteurs à l'ancien président. C'est ce matin à 9h que sera jugé en comparution immédiate le retraité qui a jeté un œuf sur la tête de Jordan Bardella samedi lors d'une séance de dédicace à Moissac, un ancien agriculteur qui n'en est pas à son coup d'essai. Il avait infligé le même sort à Éric Zemmour et aussi au bus de campagne de Marine Le Pen. L'un des membres de sa famille témoigne ce matin sur RMC.
C'est un peu le coup de trop, voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce que bon, il aime bien après toutes les encouragements, les félicitations et tout ça, mais bon, ça c'est... Comme j'ai dit, c'est pas à titre individuel qu'on fera changer les choses, c'est à titre collectif, c'est à plusieurs, c'est pas tout seul. Tout seul, lui, il fait tout seul. En plus, à sa famille, il a même pas dit qu'il allait là-bas. De toute façon, il a pas de parti politique, il est apolitique, lui. Je crois qu'il a payé le gros lot, lourd tribut. Et j'ai dit, maintenant, il faut arrêter les conneries, quoi. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit.
Et ne manquez pas, ce matin, l'invité du face-à-face, c'est Marine Le Pen et ce sera dès 8h15 sur RMC BFM TV.
Il est 7h33 et c'est une information qu'RMC vous révèle en exclusivité ce matin. 7 parents sur 10 vont devoir cette année rogner sur leurs dépenses pour pouvoir offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants. Résultat du 6e baromètre IFOP pour l'association Don Solidaire et ce sont surtout les sorties et les vacances qui vont en pâtir. On y revient dans le journal de 8h. Et pour ne rien arranger, les contrats d'assurance habitation continue de flamber, des prix qui grimpent, plus 7% l'an dernier en moyenne, plus 10% l'an prochain pour des prestations qui ne sont pas toujours à la hauteur. Selon l'UFC Que Choisir qui publie ses chiffres ce matin, les litiges entre assureurs et assurés ont été multipliés par 5 l'an dernier, Louise Salé.
Dans la Sarthe, après un épisode de sécheresse en 2020, les murs de la maison de Dominique ont commencé à se fissurer. Sa commune a obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce qui lui a permis de solliciter son assurance.
J'ai fait ma déclaration dans les temps à la compagnie d'assurance, qui a délégué un expert. Et à ma grande surprise, mon dossier a été refusé d'une fissure qui faisait quelques centimètres, j'allais dire. Maintenant, je peux passer la main et je suis obligée de calfeutrer avec des cartons. Moi, j'ai pas eu d'autre solution. J'ai été obligée d'attaquer ma compagnie d'assurance.
Les experts ont suscité des incompréhensions également dans le Pas-de-Calais après les inondations de 2023 et 2024.
Les experts ont parfois été très généreux dans une maison et dans la maison d'à côté, tout au contraire.
Gérard, responsable d'une association locale de sinistrés, déplore de grandes inégalités de traitement.
On a eu des personnes qui ont eu leur assurance qui a très vite verser un acompte. Et tout au contraire de ça, on a encore des gens en ce moment qui sont en conflit avec leurs assureurs.
Dans son rapport, l'UFC Que Choisir propose de pouvoir réaliser une contre-expertise indépendante.
7h35 en football, la Vendée a tiré le gros lot et retrouvera en Coupe de France 3 équipes de Ligue 1, dont le PSG. Une belle surprise pour le club de Vendée-Fontenay Football, pensionnaire de 5e division. Arnaud Valadon.
En visio avec le reste de l'équipe, Enzo Renoux, présent au tirage au sort au Parc des Princes, savoure. Vainqueur samedi 4-1 de Châteauroux, club supérieur de 2 niveaux, Vendée-Fontenay Football avait au tour précédent signé une performance inédite. Il avait éliminé Cholet après une séance dantesque de 40 tirs au but. Enzo Renoux, attaquant vendéen, fan du PSG, n'en revient toujours pas de jouer son club de cœur.
C'est fou de jouer le PSG. J'étais là l'année dernière dans les tribunes contre PSG-Liverpool, PSG-Arsenal. Et là, jouer contre eux maintenant, c'est exceptionnel, c'est un rêve.
Présent également au parc, Rudy Boutin, défenseur, est fier d'accueillir Dembélé et ses coéquipiers.
Champion d'Europe.
d'Europe, Ballon d'Or. C'est le meilleur club en ce moment presque au monde, donc c'est une folie. C'est une folie, ça va être un beau match et puis un beau rendez-vous pour notre club. En 15 jours, ce sera une belle fête.
Le stade de Fontenay-le-Comte, avec 3500 places, ne va pas pouvoir accueillir le PSG. Le club vendéen pourrait se tourner vers la Beaujoire à Nantes ou alors Niort, plus proche à 30 km.
Des 32e de finale qui seront à suivre sur RMC. Les suites des débordements dimanche soir à l'encontre de joueurs de l'OGC Nice, deux joueurs qui ont porté plainte contre X après les échauffourées avec les supporters au centre d'entraînement après leur 6e match de suite perdu contre Lorient.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Deauville.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'As Divine Chris Nat. L'outsider, c'est le 11 Célestial.
C'était le journal des listes d'Angers. Il est 7h30 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le compte à rebours est lancé. Il reste 24 heures pour sauver l'un des fleurons du Made in France. Bonjour Sébastien Martin.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Industrie. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. L'avenir de l'entreprise Brandt se joue demain devant le tribunal de commerce de Nanterre. 700 salariés du groupe qui se disent prêts à reprendre leur entreprise et vous les soutenez. Est-ce que ça peut suffire pour sauver l'entreprise? Je vous pose la question dans un instant. Et puis, vous qui nous écoutez sur RMC, vous êtes peut-être ouvrier ou travaillez dans le domaine de l'industrie. Est-ce que vous avez le sentiment que l'industrie est menacée en France? Appelez-nous ou venez interpeller le ministre. Vous connaissez le chemin, le 3216 ou le WhatsApp 0612 424 424. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous. Il est 7h40 sur RMC. Il faut trouver au moins 25 millions d'euros d'ici demain pour sauver l'entreprise française Brandt. Les salariés se mobilisent. Mais vous aussi, Sébastien Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le ministre délégué chargé de l'industrie. Est-ce que l'État est prêt à mettre au pot pour sauver Brandt?
Oui, d'ailleurs, je l'ai dit. Je me suis rendu sur place hier matin à Orléans, rencontrer les salariés. Rencontrer les élus et effectivement l'État est prêt à accompagner le projet. J'ai annoncé un soutien à hauteur de 5 millions d'euros, ce qui aussi a déclenché un soutien de la métropole et je tiens vraiment à remercier son président Serge Grouard à hauteur de 5 millions d'euros et puis également la région. François Bonneau a annoncé également un soutien à peu près à la même hauteur, donc on est déjà
à 15. Donc là vous en êtes à combien là?
On est déjà à peu près à 15 millions d'euros
qui sont mobilisés.
Et ben il faut encore maintenant
24
heures pour trouver
10 millions.
Je profite de ma présence sur votre antenne pour dire aux banques qu'il faut qu'elles jouent le jeu et dire aux banques qu'il faut qu'elles fassent un peu transpirer leur règlement, parce que je sais qu'en 24 heures, c'est pas facile de trouver comme ça, de prendre des engagements pour accompagner un projet. Mais derrière, il y a quand même une entreprise qui représente 700 salariés aujourd'hui, des marques qui sont partout chez chacune des Françaises et des Français, et pas que les Françaises et les Français. Et surtout, il y a des savoir-faire que moi j'ai vu hier, on m'a fait la démonstration de ce qu'on savait faire là-bas, des technologies qu'on utilisait. C'est pas du tout une entreprise du passé, bien au contraire. Et donc je crois que je profite de votre antenne pour dire que s'il y a des gens qui veulent sauver l'industrie française, il y a encore 24 heures pour le faire, et d'être un peu patriote,
alors,
ça ferait pas de mal.
Je suis très touchée que vous pensiez que sur RMC, les banquiers vont tout à fait tout changer et trouver 10 millions. Je suis quand même un tout petit peu surprise que vous, ministre de l'Industrie, ça se passe comme ça, en les prenant à partie sur une antenne de médias.
Non, mais il y a eu une réunion hier.
Ça veut quand même dire que les banquiers, aujourd'hui, ne jouent pas le jeu.
Y a
vous
une
êtes
réunion...
obligé de le dire publiquement.
Je dis aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et que si on utilise les
pourquoi
process...
Pourquoi on n'a pas beaucoup de temps? Je rappelle...
Parce que demain
choses,
matin, il faut que le dossier aille au tribunal.
Le tribunal de commerce de Nanterre va donc décider du sort de Brandt.
C'est
et
ça.
Il faut que le dossier soit ficelé.
Il faut que le dossier soit ficelé, qu'on ait des engagements à la hauteur de ce que sont capables de faire les collectivités et pouvoirs publics. Et ben, il faut aussi que les investisseurs privés, que les banquiers répondent à cet appel. Parce que derrière vous, c'est l'image de cette usine. Moi, j'y étais hier. Il y a vraiment des gens qui sont attachés à un savoir-faire. Il y a vraiment des marques... Enfin, je veux dire, Brandt, c'est aussi De Dietrich. Tout le monde connaît ces marques-là. Et je pense que si à Noël, on a envie de faire quelque chose pour l'industrie française, il serait peut-être temps de se bouger.
En gros, vous dites même quasiment qu'il faut acheter des Brandt pour les mettre sous le sapin dans les cadeaux de Noël.
Je dis juste
relançons de manière patriotique Brandt.
Je dis juste que ce qui a été fait, par exemple, avec Duralex, exactement dans la même région, parce que Duralex, c'était aussi dans la région d'Orléans. Aujourd'hui, c'est ce que cherche à faire et un investisseur et les salariés de Brandt, c'est-à-dire une SCOP, exactement ce qui a été fait pour Duralex. Et aujourd'hui, regardez, Duralex est reparti. Alors peut-être
Duralex
qu'on peut faire la même chose.
Avec parfois des moments difficiles, mais avec aussi le public au rendez-vous.
Exactement.
Duralex, les salariés Duralex viennent de lever 19 millions d'euros de promesses d'investissement de particuliers, hein, oui. De tout un chacun, des Français qui ont décidé de mettre une part de leurs économies dans Duralex. Le contexte, il est quand même difficile pour ce type d'entreprise. Et puis l'industrie qui globalement souffre, je voudrais encore vous interroger sur ce dernier chiffre que l'on vient d'obtenir, moins 0,3% en novembre sur un an pour l'industrie automobile. Stellantis qui va encore réduire fortement sa production en France d'ici 2028, moins 11% en 3 ans. Est-ce qu'on est quand même au bout d'un cycle ?
Écoutez, la situation sur l'automobile, ça fait maintenant depuis 2019 qu'elle est difficile. Depuis 2019, on est passé d'un peu plus de 2 millions d'immatriculations, 2,2 millions à 1,7 million d'immatriculations aujourd'hui. D'ailleurs, je réunis toute la filière en sortant de votre studio en fin de matinée. Il y a eu plusieurs effets. D'abord, les prix des automobiles ont énormément augmenté juste après la crise Covid. Ça a été lié notamment au problème de semi-conducteurs, à une montée en gamme. Voilà, aujourd'hui, les choses sont en train de bouger aussi sur l'automobile. On travaille sur le petit véhicule électrique notamment. Je crois qu'il y a des évolutions
à
voir.
Ça peut rebondir.
Ça peut rebondir, bien évidemment. Le marché de l'automobile, il n'est pas condamné. Bien évidemment que ça peut rebondir. D'ailleurs, au mois d'octobre, là, les chiffres de novembre, c'est une quasi-stabilité. Au mois d'octobre, le marché des immatriculations avait augmenté de presque 3% en France. Donc, il y a aussi sur le véhicule électrique, et moi, j'en ai marre qu'on dise n'importe quoi sur le véhicule électrique, parce que le véhicule électrique, finalement, il a aussi tiré les ventes d'automobiles en France, puisque nous sommes arrivés au mois de novembre à un véhicule sur quatre vendu qui est un véhicule électrique. Je rappelle qu'en 2019, c'était 1,9%. Donc la marge de progression, elle est encore là pour arriver à 100% un jour. Mais aujourd'hui, on est à 25%. On est passé de quasiment zéro
à 25%. À 100%, les 100%, c'est censé quand même être demain. C'est-à-dire, c'est censé être en 2035, hein, si on écoute l'Union européenne. Donc on n'y est pas encore quand même, franchement.
Non, on n'y est pas.
En termes, je veux dire, d'achat des particuliers, ils sont pas non plus au rendez-vous. On a voulu mettre la charrue avant les bœufs.
Il y a encore des freins. D'abord, 2035, c'est pas demain. On est en 2025. Ouais. Il reste encore 10 ans. C'est vrai que c'est un changement de technologie. Et un changement de technologie, ça s'accompagne, ça prend du temps. Donc d'ailleurs, à ce sujet, la France dit une chose très simple. 2035, il faudra sans doute la s'oublier, mais il faut privilégier l'industrie européenne.
Et je voudrais qu'on accueille Vincent, qui nous appelle de Neuville-sur-Saône, dans la métropole de Lyon. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, vous travaillez dans l'industrie spécialiste du repoussage, qui est donc une méthode, je crois, ancestrale de déformation des métaux. Et vous vouliez témoigner sur la difficulté aujourd'hui de l'industrie en France. Vous le vivez au quotidien.
C'est ça. Nous sommes du coup, c'est une vieille technique qui existe depuis très longtemps. Et nous sommes un acteur majeur du coup dans l'aéronautique et la défense.
Ouais.
Et on remarque au fur et à mesure des années que il y a de plus en plus de difficultés, de moins en moins d'acteurs qui pensent avec cette technologie, parce que c'est quelque chose qui est oublié, qui n'est plus appris à l'école.
Vous avez peur que ça disparaisse ?
Ça, c'est en train de disparaître, c'est sûr, parce que même que ce soit pour les gens qui pensent à fabriquer des pièces par repoussage, ils n'y pensent plus parce que on n'en parle plus à l'école dans le cadre des développements, mais aussi, surtout, dans le cadre de la formation pure de repousseurs, elle n'existe plus depuis plus de 20 ans.
Donc vous appelez à ce qu'on relance cette formation ?
C'est ça, et c'est le cas dans tous les métiers, en fait, industriels purs, manuels, ou avec un savoir-faire exceptionnel, que ce soit dans les métiers simples, de l'usinage, de tout ça, on sait les fabriquer en commande numérique, mais on oublie vraiment la réalité de la réalisation.
Est-ce que la réindustrialisation, je vais poser la question tout de suite au ministre, est-ce que la réindustrialisation, ça passe pas aussi par ça, c'est-à-dire par le fait que la formation remette le paquet sur les métiers de l'industrie comme celui de Vincent ?
Mais bien sûr, ce que dit Vincent est très vrai, c'est-à-dire que finalement, comme notre économie s'est tournée énormément vers les services et un peu moins vers l'industrie, les formations ont suivi le même mouvement. Et donc vous avez certaines formations qui ont disparu et pourtant dont on a besoin. Et Vincent travaille plutôt dans des secteurs qui en ce moment, que ce soit l'aéronautique ou l'armement, sont plutôt des secteurs qui sont en dynamique. Donc là, c'est pas forcément un problème de débouchés. C'est une question de compétences et de formation. Moi, je prône l'idée qu'il faut absolument que les formations se rapprochent beaucoup plus des territoires industriels. Les formations sont beaucoup plus concentrées dans les grandes villes, dans les métropoles, autour des métiers de service. Bien sûr, on travaille dans ce qu'on appelle le programme territoire d'industrie. Il y a 164 territoires d'industrie à travers la France qui regroupent en général plusieurs intercommunalités. Un des sujets de travail, c'est le sujet des compétences. Et ça se fait certes avec l'État et avec l'éducation nationale, mais ça peut se faire aussi avec les organisations professionnelles. Il y a des CFA, des métiers de l'industrie, qui existent dans beaucoup de villes et qui sont soutenus dans le cadre de ce programme.
L'Assemblée nationale a voté la nationalisation d'ArcelorMittal. Vous en pensez quoi ?
Moi, j'en pense qu'on peut aussi tout nationaliser et puis penser que ça va régler les problèmes de notre économie. Mais nationaliser ArcelorMittal France, c'est-à-dire que, en fait, vous prenez une entreprise, puis vous la coupez de son amont. C'est-à-dire, par exemple, le minerai qu'il va falloir mettre dans les forges pour pouvoir faire de l'acier. Puis vous la coupez de son aval, parce que le groupe ArcelorMittal, et ce qui est produit à Dunkerque, par exemple, une grosse partie de la production va dans les entreprises du groupe ArcelorMittal.
Quand vous regardez les Anglais, ils font ça pour British Steel?
Oui, je crois qu'ils perdent 700 000 livres par jour.
Donc pour vous, donc
moi je veux bien qu'on fasse finalement un cadeau à ArcelorMittal, parce que si on nationalisait ArcelorMittal, d'abord un, on fait un énorme chèque de 6 ou 7 milliards d'euros pour acheter ArcelorMittal. Ensuite, c'est nous qui prenons les pertes que lui absorbe à l'intérieur de son groupe d'un peu plus de 300 millions d'euros chaque année. Et ensuite, bien évidemment, bah on se coupe du reste du groupe, donc on n'a plus l'amont pour mettre dans nos fourneaux, et on n'a plus l'aval pour écouler notre acier. Donc je trouve tout ça d'une logique absolument dingue, où on a vu l'ERN et LFI se retrouver main dans la main pour un discours anti-économique et qui n'avait ni queue ni tête.
Merci beaucoup Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie. Vous mentionniez le RN. Notez que Marine Le Pen est mon invitée à 8h15 sur RMC et BFM TV. Merci aussi à Vincent. Vincent qui nous appelait depuis la métropole de Lyon et qui plaide pour la technique ancestrale du repoussage. Cécile Duflo est entrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour.
La voix de gauche sur RMC tous les mardis. Il y a ce dépôt des listes, qu'on appelle les listes Shabada, c'est-à-dire un homme, une femme pour les municipales. Eh ben, certains s'en plaignent, disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de femmes. Vous avez un appel à lancer, Cécile Duflo.
Ils ont tort, c'est une très bonne nouvelle. C'est ce qui va permettre qu'il y ait plus de femmes élues dans les petites communes. Et j'appelle les femmes à s'engager, qu'elles n'aient pas peur de le faire.
Vous le dites dans un instant, il est 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, Cécile Duflo et les listes Shabada. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec un ancien ministre qui pousse la chansonnette.
Je ne parlerai pas.
Est-ce que vous le reconnaissez ?
Je ne penserai rien.
Non.
C'est Jean-Michel Blanquer. Alors, si vous avez aimé Bruno Le Maire en librairie, vous apprécierez peut-être l'ancien ministre de l'Éducation nationale en musique. Quoique, attention, vous avez peut-être sa voix en tête. Là, c'est assumé. C'est un projet IA, de la pure intelligence artificielle avec laquelle s'est amusé l'ancien ministre. Il voulait tester en conditions réelles ces outils qui permettent aujourd'hui à un amateur complet de faire un disque. Alors, il a soumis quelques vers d'Arthur Rimbaud. Il a imaginé l'intention et laissé l'IA composer la mélodie, choisir l'orchestration et lui générer une voix de chanteur. Ça s'appelle « Comme une femme ».
Je ne parlerai pas.
Alors, l'ancien ministre revendique un peu de légèreté. Il a voulu s'amuser, mais il en profite aussi pour relancer un débat sur l'émergence de l'intelligence artificielle qui crée des peurs, dit-il. Mais voilà, vous avez Jean-Michel Blanquer en chanson.
Je ne parlerai pas. Je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans l'âme.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h53 et c'est l'heure de la voix de gauche ce matin sur RMC avec Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Les élections municipales, c'est donc dans 3 mois. La parité sera pour la première fois obligatoire sur toutes les listes, même dans les petites communes, les communes de moins de 1000 habitants. Pour vous, c'est une chance?
Et oui, c'est une chance, parce que les chiffres sont têtus. En 1990, avant la loi sur la parité, il y avait 20% de femmes parmi les conseillers municipaux. Aujourd'hui, c'est 42,2% et c'est grâce à cette loi. Comment on peut savoir? Parce que dans les villes de plus de 1000 habitants, là où il y a la loi, c'est 48,8%. Et dans les villes de moins de 1000 habitants, enfin dans les villages, c'est 37,4. Donc on voit de façon évidente l'effet de la loi.
Alors, quand même, ils disent que c'est difficile de les faire, ces fameuses listes. Est-ce que ça veut dire aussi que les femmes ne veulent pas être candidates?
Alors, c'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on disait d'ailleurs avant la loi sur la parité. Mais ça prend racine dans une vieille histoire. Une vieille histoire parce que la France a été un pays où le droit de vote des femmes a été accordé très tardivement, avec des phrases assez dingue. Le sénateur Bérard, il disait, plus que pour manier le bulletin de vote, les mains des femmes sont faites pour être baisées, baisées dévotement, amoureusement quand ce sont des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme. Voilà ce qu'on disait avant d'autoriser les femmes à voter. Donc c'est ça l'histoire.
Bon, après, aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes qui disent quand même que c'est très contraignant et il y a un problème de disponibilité, c'est pas un problème politique.
Oui, alors j'ai entendu, d'ailleurs sur cette antenne, un maire dire c'est compliqué parce qu'elles ont plus de choses à faire à la maison, en gros. Alors ça c'est vrai que pour le coup, il y a une vraie inégalité dans les tâches ménagères, mais ça c'est très politique. Il n'y a aucune raison que les femmes fassent plus de tâches ménagères que les hommes. Et pourtant, là où c'est fou, c'est qu'il y a autant de bénévoles hommes que de bénévoles femmes. Et pourquoi
dans les associations.
Exactement, dans les associations. 50-50. Mais dès que c'est des présidents, il y a plus d'hommes. Mmh. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les maires. Je l'ai dit, 42,2% des conseillers municipaux sont des femmes. Et pourtant, les maires, c'est 20%. Et on voit bien que la courbe, eh ben, elle progresse très, très doucement.
Donc, il faut continuer à appliquer. Il faut absolument leur dire, allez-y.
Oui, et puis je voudrais parler aux femmes qui, comme moi, quand j'avais 17 ans, trouvaient que vraiment, la loi sur la parité, c'était pas juste, qu'on devait être élu sur nos mérites et pas par une loi. Et en fait, en vrai, ça ne marche pas. Et donc, il y a une très jolie femme de Viviane Reding, qui est une ancienne commissaire européenne, qui dit, et je partage 100%, je n'aime pas les quotas, mais j'aime ce qu'ils produisent. Ben, ce qu'ils produisent, les quotas, c'est que des femmes deviennent élues. Et donc, il faut que cette loi s'applique sur les villes, les villages de plus de moins de 1000 habitants. Et je le dis à toutes les femmes qui nous regardent, engagez-vous, vous verrez, c'est passionnant d'être au service de la collectivité. Et vous êtes évidemment aussi capables que les hommes, peut-être même plus parfois.
L'appel de Cécile Duflo aux femmes de France, lancez-vous, soyez candidate au municipal, c'est dit sur RMC ce matin. Merci Cécile. Dans un instant, le journal de 8h avec ce chiffre RMC qu'on vous dévoile ce matin. 7 parents sur 10 vont rogner sur les dépenses du foyer pour tenter d'offrir des cadeaux à leurs enfants à Noël. Reportage dès le début de ce journal. Et puis la météo, gris et souvent pluvieux. Notez également que Marine Le Pen est mon invitée dès 8h15 sur RMC. 7h56, tiens, les cadeaux, si vous avez du mal à en faire, eh ben on vous l'offre sur RMC. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer Noël au 7-32-16, Noël au 7-32-16, et dans 15 minutes, on ouvrira le calendrier de l'Avent ensemble. Il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h59, merci d'avoir choisi RMC la radio, RMC Story la télé.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un Noël pas comme les autres en perspective. 7 parents sur 10 disent qu'ils font attention à la moindre dépense cette année en vue des fêtes de fin d'année selon un baromètre qu'on vous dévoile ce matin sur RMC. Deux adolescents de 16 ans incarcérés, mis en examen pour un projet d'attaque antisémite repéré pour des propos terroristes sur une messagerie. On va revenir là-dessus. Et c'est peut-être aujourd'hui que sera scellé le sort de la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'une délégation américaine est en Russie aujourd'hui pour parler du plan de paix avec Vladimir Poutine.
Vous êtes peut-être parents, vous gagnez peut-être bien votre vie, mais pourtant, vous êtes nombreux à vous serrer la ceinture à l'approche de Noël.
7 parents sur 10, précisément, qui disent qu'ils rognent sur leurs dépenses en ce moment pour pouvoir faire des achats et gâter quand même leurs enfants. C'est le résultat du baromètre IFOP pour l'association Don Solidaire qu'on vous dévoile donc ce matin sur RMC. La preuve ici, écoutez en région parisienne avec Cassandre Brault.
Des chaussettes, des lettres pour le plus petit.
Angelica a déjà commencé ses cadeaux de Noël.
Vous voyez, mais ça, c'est des choses que j'aurais pas achetées précédemment. Bah parce que j'aurais pris quand même un plus haut de gamme. Parce que mon budget y restera aujourd'hui.
Cette mère de 3 enfants a commencé à mettre de côté dès le mois d'août et ça n'a pas suffi. Alors elle doit faire des arbitrages.
On a rogné plutôt sur le budget vêtements. On va rester sur les vêtements qu'on avait l'année dernière ou il y a encore 2 ou 3 ans.
Léa aussi traque la moindre économie pour avoir un peu de marge.
Bah, je mets de l'essence que si j'ai besoin de me déplacer, par exemple. Les courses, pareil, c'est que quand j'ai besoin. Enfin, je vais pas avoir les descendre dans mes placards. Cette année, c'est compliqué et on fait d'autant plus attention parce qu'on a envie de faire des cadeaux à nos enfants.
Mais difficile pour ses parents de ne pas céder à la culpabilité. Ils sont même plus de 55% selon le baromètre Don Solidaire à avoir honte de ne pas pouvoir gâter leurs enfants autant qu'ils le voudraient.
C'est un peu le moment où on a envie de faire plaisir, on a envie de donner tout ce qu'on peut donner, quoi. Et du coup, le fait de devoir faire attention, de tout compter, de réfléchir et de se restreindre aussi, parce qu'il y a des choses où on se dit bah non, cette année, c'est pas possible. C'est très très frustrant et c'est contraignant.
Et pour cette mère de famille, cette année, les cadeaux de Noël, ce sera seulement pour les enfants.
Ce sont deux adolescents de 16 ans qui ont été mis en examen par un juge antiterroriste redoutant un projet d'attaque antisémite contre des personnes de confession juive interpellées à Strasbourg et en région parisienne. Leur profil est en fait une des menaces redoutées par le renseignement, à savoir des jeunes répondant aux idéologies du groupe État islamique et qui échangent, comme c'est le cas pour l'un d'eux dans cette affaire, qui échangent du contenu terroriste dans une boucle WhatsApp. Voilà ce que nous dit l'ancien coordinateur du renseignement à l'Élysée, Jérôme Pinault.
On le voit aussi, il y a une nouvelle manière de préparer des projets.
c'est-à-dire des jeunes qui ne se connaissent pas, qui peuvent être à différents endroits de France et qui, sur les réseaux sociaux, entrent en contact et imaginent commettre des attentats. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'ils se font repérer. Ces réseaux sociaux ne sont pas à l'abri de la surveillance des services de police et des services de renseignement.
Voilà, Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement, donc ce matin sur RMC. C'est à 9h que doit être jugé à Montauban le septuagénaire qui a écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella le week-end dernier. Durant une séance de dédicace de Jordan Bardella en pleine tournée en ce moment, portée par un sondage Odoxa qui le donnait récemment vainqueur de la présidentielle. Sondage qu'il n'a même pas testé, comme on dit, Marine Le Pen, dans l'attente de son procès en appel pour l'affaire des assistants parlementaires européens. Invité d'RMC ce matin, 8h15, Marine Le Pen, Hélène Terzian du service politique et RMC, vous nous dites qu'elle cherche à reprendre la main.
Oui, on l'a vu arpenter plusieurs marchés de Noël ce week-end dans le Pas-de-Calais. Voilà Marine Le Pen ce matin dans notre studio, manière de montrer qu'elle ne lâche pas. Certains en interne ayant émis le sentiment ces derniers temps qu'elle renonçait. Une reprise en main quand Jordan Bardella prend la lumière en pleine tournée de dédicaces et qu'il écrase dans un sondage tous ses rivaux au second tour alors que Marine Le Pen n'est pas testée. Dans ce même sondage, il est même préféré chez les sympathisants pour 2027. On a joué avec le feu, regrette une figure mariniste. Pourtant, c'est Marine Le Pen qui a mis en place ce passage de relais avec Jordan Bardella pour dire à ses électeurs, explique un cadre RN, n'allez pas voir ailleurs si elle est empêchée. Et si elle peut se présenter mais qu'il reste plus haut dans les sondages, le même est très clair, il n'y aura pas de primaire, elle sera candidate.
Tous les regards sont braqués vers Moscou ce matin où l'émissaire de Donald Trump se rend pour discuter directement avec Vladimir Poutine. Du plan de paix pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le fameux plan qui a été travaillé depuis la première version. Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. Les Européens et Emmanuel Macron en tête, il a d'ailleurs téléphoné à Donald Trump hier soir, se demande avec quelle conviction les Américains vont défendre ce plan aujourd'hui.
Écoutez, Steve Witkoff va essayer de vendre à Vladimir Poutine la version remaniée du plan de paix de Donald Trump. La Maison-Blanche se dit très optimiste, même si ce texte sur lequel Américains et Ukrainiens se sont mis d'accord laisse de côté les questions les plus sensibles, à commencer par les concessions territoriales que Moscou exige. Les Américains, en tout cas, sont convaincus que l'Ukraine n'est pas en position de force dans les discussions. Trump estime notamment que les Ukrainiens sont en difficulté militairement et que du coup, Zelensky va devoir accepter des concessions. La visite de Witkoff intervient justement alors que les Russes revendiquent la prise de Pokrovsk, une ville stratégique à l'est de l'Ukraine. Le Kremlin, qui diffuse d'ailleurs des images de Poutine en tenue militaire, en train de visiter un poste de commandement, une séquence clairement destinée à montrer aux Américains que sur le champ de bataille, la dynamique est du côté de Moscou.
Il est 8h05 sur RMC, la directrice du Louvre n'était pas au courant. Des soucis de sécurité dans la fameuse galerie Apollon, où vous savez que les malfrats ont dérobé les joyaux de la couronne en entrant par la fenêtre. Malgré le rapport de la Cour des comptes, un audit aussi datant de 2018, Inès Zegloul, elle dit même dans le journal Le Parisien que ce n'était pas un sujet pour elle.
Elle le martèle. Pour moi, la galerie d'Apollon, c'était un dossier clos. À ma prise de fonction, relate Laurence Descartes dans les colonnes du Parisien, on m'a dit que s'il y avait bien une chose sur laquelle on pouvait être rassuré, c'était les joyaux de la couronne. Leur vitrine avait même été rénovée. La présidente les qualifie de solides.
Visiblement, les vitrines n'étaient pas suffisantes.
Élise Muller, surveillante du musée, rit jaune. La représentante syndicale dit avoir pris connaissance de ses propos.
Avec douleur, oui. Les fragilités, elles étaient connues. Enfin, pour peu qu'on s'y intéresse. Mais visiblement, faire des soirées et des inaugurations, c'est plus utile que d'empêcher des vols.
Et le plan de sécurité, prévu depuis plusieurs années, pourquoi n'était-il pas déjà mis en place, interroge-t-elle. À cette question, Laurence Descartes botte en touche. Nous étions sur le point, avant le vol, de le déployer concrètement, assure-t-elle.
On parle régulièrement des débordements dans le monde du football. Eh bien, un cap a certainement été franchi à Nice. C'était dimanche soir. Après la défaite des Niçois à Lorient, Nice en pleine crise. En ce moment, 6 défaites consécutives, eh bien, environ 400 supporters sont allés exprimer leur mécontentement auprès des joueurs devant le centre d'entraînement. Une fois la nuit tombée, le ton est monté. Le directeur sportif Florian Maurice et deux joueurs, Terem Moffi, Jérémy Boga, ont particulièrement été visés. Ce supporter présent dimanche racontait hier soir ce qui s'est passé. C'était dans l'afterfoot. Écoutez sur RMC.
Arrivé sur place, il y a le bus qui arrive au bout de 15-20 minutes, vers 23h15. Il y en a qui sont cagoulés, il y en a qui sont pas cagoulés. Les fumigènes sont sortis, il y a des chants très hostiles, le bus se rapproche, le bus est stoppé. T'as des policiers d'un côté, de l'autre, les agents de sécurité de l'OGC Nice. Et puis là, il y a Florent Maurice qui sort en premier, qui se prend une marée de hurlements. Il est chahuté. J'ai vu des joueurs pris à partie. Évidemment, c'est Moffi, Boga et Maurice qui ont pris très très cher.
Des coups ont été portés à ces deux joueurs, en l'occurrence en arrêt pour 5 et 7 jours, et qui portent plainte. Il n'y aura pas l'entraînement avant demain à Nice. Et puis une des infos du matin, c'est qu'il y aura bientôt un nouveau parc Astérix. Vous connaissez la musique ? La Compagnie des Alpes, qui est à la tête du parc, annonce un parc prochainement en Allemagne, le deuxième hors de France, sans doute en 2030, le premier hors de France, sans doute pour 2030, avec une première zone qui sera dédiée spécialement à Idéfix, le chien d'Obélix. 900 visiteurs quand même par an sont espérés.
C'était donc le journal de Quentin Vinet. Dans un instant, Arnaud Demanche va nous rejoindre, et puis dans 5 minutes, le face-à-face avec Marine Le Pen, dès 8h15 sur RMC et BFM TV. Et puis il y aura aussi Nicolas Canteloup, bien sûr, et ses imitations. Ne le manquez pas, parce qu'aujourd'hui il reviendra sur l'interview de Marine Le Pen. Ce sera donc à 8h50 sur RMC, mais pour l'heure il est 8h07. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Tous les jours.
Il est 8h09, vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Arnaud Demange, salut.
Tous les jours, y compris le 2 décembre, Apolline.
Oui.
Et c'est donc l'occasion d'ouvrir la deuxième case de notre calendrier de l'Avent du LOL.
Ouh là là.
Chaque jour, une nouvelle blague pour bien démarrer la journée. Mmh. Vous êtes prêts?
Mmh.
Bon, Mathieu, admettons, t'as deux poussins et t'en veux qu'un. Qu'est-ce que tu fais?
Un
dans poussin.
Oh.
Et voilà.
Wow.
C'est bon de rire.
C'est bon de rire.
Sinon, Apolline, dans un instant, vous recevez Marine Le Pen.
Oui.
Une jeune éleveuse de chats dynamique qui est aussi, on le sait moins, patronne du groupe RN à l'Assemblée.
Ah bon ?
Et on s'amuse bien au groupe RN. Vous avez entendu Sébastien Chenu en réunion publique dimanche soir. La phrase est tellement drôle. Il était tout fier qu'il y ait du monde partout au RN. On écoute.
Il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées Kemsex, ça n'a rien à voir.
Je n'ai absolument pas compris cette situation. C'est-à-dire, c'est complètement fou.
Il a dit hier sur BFM TV, j'ai fait exprès, c'était une blague, c'était pour rigoler. Ceci dit, j'ai quand même appris un truc. Il y a aussi des soirées chemsex à Debout la France, avec Nicolas Dupont-Aignan. Bon, alors il est tout seul, mais il prend un Viagra et zou. Allez, Debout la France. Allez, Nico, pense à De Gaulle. On en aura une. Volodymyr Zelensky, elle est drôle. Volodymyr Zelensky qui était hier avec Emmanuel Macron pour discuter de la paix. Alors, scoop, c'est mal barré.
Oui.
Pourtant, Emmanuel Macron s'est battu. Il a passé des coups de fil toute la journée. Et puis, il est allé voir Zelensky pour lui dire « Alors, j'ai une bonne nouvelle. Je viens d'avoir Poutine au téléphone. J'ai été très ferme. Et c'est plus 10%, mais 50% de l'Ukraine qui veut. Je suis désolé, je comprends pas. D'habitude, je suis un négociateur super. Si, je te jure, regarde la réforme des retraites. Regarde le Mercosur. Et alors, en parallèle, il y avait aussi une délégation ukrainienne qui négociait ce dimanche à Hallandale Beach, chez Mathieu Bellard, en Floride. C'était casse-gueule, ça. Les émissaires russes et ukrainiens en Floride, sous 25 degrés, avec des filles en bikini sur la plage, c'est un coup à ce qu'ils veuillent pas rentrer, ça. Dans leur pays en guerre, plein de neige au mois de décembre. La prochaine fois, les gars, prenez pas de risques, faites ça au Havre. C'est réglé en 2 heures. Hein, vous êtes d'accord? Da. Et vous? Da. Bon, ok, on se barre du Havre. Oh, ouf. Tant mieux.
Le maire de Saint-Étienne, bon vieux Gaëlbert Rio, a été donc condamné à 4 ans de prison ferme dans l'affaire du chantage à la sextape.
4 ans ferme. Bing. C'est bien fait. Après, quand t'as vécu toute ta vie à Saint-Étienne, la prison, t'es un peu habitué. Il a aussi été condamné pour détournement de fonds, puisque l'argent de la mairie de Saint-Étienne avait servi à payer toute l'organisation du stratagème et du chantage.
Mmh.
Alors que bon, franchement, encore une fois, à Saint-Étienne, il y avait mieux à faire avec cet argent qu'on a visité. Et en plus, tout ça, c'était quand même pour garder le pouvoir à Saint-Étienne. Je veux dire, on parle pas de la Maison Blanche.
Mmh.
C'est décider de quel type de fleurs on va mettre sur les ronds-points, décider des horaires d'ouverture du Super U. C'est la honte, quoi. Quelle honte pour les LR. Un minable chantage à la sextape, alors qu'au RN ils font des soirées chemsex hyper bien organisées. J'entends un petit chat qui arrive. Eh bien, c'est Marine Le Pen pour la grande interview à tout à l'heure.
Ça se passe donc dans un instant sur RMC et BFM TV. Mais avant ça,
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Et c'est l'heure de faire gagner Ambre. Bonjour Ambre, félicitations. Oui. On dirait Maria Carré. Ambre, ça y est, vous êtes déjà complètement dans l'ambiance.
Complètement, à fond.
Alors Ambre, vous connaissez le principe, je vais ouvrir la petite case de ce calendrier de l'Avent avec vous. Allez. Et vous avez gagné un séjour Bellambra, club et hôtel d'une valeur de 2000 euros.
Joyeux Noël.
Yes, à vous les vacances.
Vous faites quoi?
Vous faites... Merci papa RLC. Vous faites quoi dans la vie, Ambre?
Coiffeuse, technicienne, hein.
Mais ben, on est très 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 heureux pour vous. Vous allez pouvoir passer en vacances grâce à RMC. Ouais. En tout cas, vous mettez l'ambiance. Je pense que dans le salon chez vous.
Ah ouais, dans le salon ça y va. Ouais,
il y a
la
une
musique
bonne,
et tout,
bonne
ouais.
ambiance. On vous embrasse. Très belle journée à vous. Il est 8h13 et dans un instant, ça se passe donc sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est Marine Le Pen. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h17 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes bien sûr la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, députée du Pas-de-Calais. Vous êtes l'ancienne et peut-être future candidate à la présidentielle. On va y revenir bien sûr. Mais je voudrais commencer par parler de Sébastien Lecornu qui vous a reçu hier, qui vous recevra à nouveau demain. Il vous a reçu hier pour parler des questions de défense, demain pour parler des questions de budget. Et il a eu cette phrase hier, il s'est adressé au patron français. Il leur a vanté, je cite, les mérites de la vitalité démocratique que nous traversons aujourd'hui. C'est le sens de l'histoire, dit-il, à propos de ce qu'il se passe en ce moment même à l'Assemblée. Est-ce que vous partagez l'idée que c'est une vitalité démocratique ?
Non, mais la réalité, c'est qu'il veut défendre l'idée que le fait de ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale serait devenu quelque chose de normal et même de souhaitable. C'est d'ailleurs un discours qui a été relayé de manière assez étonnante par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Je ne le crois pas. Je crois qu'il est évidemment beaucoup mieux d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale parce qu'une politique, elle doit avoir une cohérence avec des objectifs qui sont choisis par les Français. Donc vous comprenez bien que Sébastien Lecornu cherche à échapper à la dissolution et donc à de nouvelles élections, comme d'ailleurs l'ensemble des partis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Leur seul objectif, c'est pas de voter le budget, c'est pas de défendre les Français, c'est pas de lutter contre le chômage, c'est pas tout ça. Leur seul objectif, c'est de ne surtout pas avoir de nouvelles élections, de ne surtout pas retourner devant les Français.
Alors lui, il dit que son seul objectif, c'est d'avoir un budget pour la France. Il dit sans budget, on ne peut pas y arriver. Il dit d'ailleurs à ses patrons à qui il écrit, vous avez exprimé vos inquiétudes sur la fiscalité, je les entends et je mesure pleinement votre besoin de stabilité, mais vous avez aussi compris le vrai danger, dit-il, pour le pays, ce serait l'absence de budget. Et c'est quand même vers ça qu'on s'oriente, non ?
Il y a des chances. Oui, c'est l'hypothèse la plus crédible, en effet. Ça veut dire qu'en réalité, toute la procédure qui a consisté à, pour les uns, se trancher un bras, pour les autres, se trancher une jambe, pour ne surtout pas aller précisément devant
les
électeurs, n'aura servi à rien. Maintenant, si vous voulez, les grandes déclarations de M. Lecornu à l'égard des entrepreneurs, pardon, mais il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que dans son budget, celui qu'il a présenté, il y avait 28 milliards de dépenses supplémentaires et 19 milliards de prélèvements supplémentaires. Voilà, qui ont été baissés par l'Assemblée nationale à 12 milliards.
Enfin, voyez, il dit de vous que vous avez voté 34 milliards d'augmentation d'impôts.
Bah, il ment. Voilà, il ment.
Qui ment ? Lui,
tous, Renaissance, tout cela. Parce que, en réalité, ils se basent sur un dispositif que nous avons voté, qu'ils évaluent à 26 milliards. Ils sont les seuls, d'ailleurs, à l'évaluer à 26 milliards, puisque Bercy ne l'évalue même pas, qui consiste à faire payer aux multinationales étrangères le même niveau d'impôt qu'aux TPE, PME française. Est-ce que c'est pas normal? Donc c'est un dispositif de lutte, en réalité, contre la suroptimisation qui s'analyse en une fraude.
Vous en avez voté beaucoup des taxes, quand même.
Non, pas tant que ça. Non, c'est beaucoup opposé à des taxes. Parce que je crois que l'extrême gauche
la surtaxe
a
sur les
présenté
revenus,
180...
l'impôt sur la fortune improductive. Vous en parliez à l'instant, cette surtaxe sur les bénéfices des multinationales, le doublement de la taxe sur les géants du numérique, la taxe sur les holdings patrimoniaux, l'exit tax.
Non, mais
ça
d'abord,
fait beaucoup de taxes.
Alors, on va les reprendre une par une. D'abord, notre philosophie. Notre philosophie, nous l'avons posée dès le départ et nous l'avons suivie. faire baisser les prélèvements sur les TPE-PME et faire baisser les prélèvements sur les classes moyennes et populaires. Et nous avons réussi à le faire. D'ailleurs, Madame de Montchalin l'a annoncé à plusieurs reprises qu'effectivement, à l'issue de ces votes, il y avait eu une baisse des prélèvements sur les TPE-PME et les classes moyennes et populaires. Et c'est vrai, une mise à contribution des grandes multinationales, notamment étrangères, et des hauts patrimoines par l'intermédiaire de l'impôt sur la fortune improductive. Bon, ça là, c'est pas le nôtre, hein, puisque nous, c'était l'impôt sur la fortune financière.
Mais quand vous dites, il peut s'adresser en effet au patron Sébastien Lecornu, puisque dans son budget initial, il y avait quand même beaucoup de taxes. Vous aussi, vous avez besoin peut-être de les rassurer, les patrons. Vous en êtes où avec les patrons? Certains disent de vous que vous êtes devenu communiste au moment de ce budget. Ça, c'est une partie de la droite qui vous accuse d'être carrément devenu communiste. D'autres disent que vous draguez les patrons. Vous en êtes où?
Oui, la droite nous traite de fascistes, la gauche nous traite de communistes, ça veut dire qu'on est a priori plutôt...
Enfin maintenant, c'est la droite même qui vous traite de communiste.
Plutôt bien positionné. Hein. Nous subissons un peu ce que le général de Gaulle subissait également à son époque, c'est-à-dire l'outrance des deux camps. Donc nous, très clairement, nous rencontrons les chefs d'entreprise, nous leur indiquons que nous souhaitons une réindustrialisation du pays. Nous avons donc présenté et voté, quand ça a été présenté par d'autres, la baisse des impôts de production, parce que nous pensons que c'est un des freins à la réindustrialisation, mais que nous ne sacrifierons pas notre système de protection sociale. Et que nous pensons donc que il ne faut pas continuer à augmenter indéfiniment les prélèvements, qu'il faut faire des économies. Et nous en avons proposé dans notre contre-budget 57 milliards d'économies. Voilà. Le problème, c'est que nous n'avons pas pu encore analyser cette partie-là du débat budgétaire.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui un ras-le-bol fiscal?
Mais il y a non seulement un ras-le-bol fiscal, il y a non seulement un problème de consentement à l'impôt, mais je veux dire, je le dis depuis des années, il y a surtout un problème de consentement à la dépense. Les Français ne sont plus d'accord avec la manière dont on dépense leur impôt. Voilà, ça c'est une réalité que ne veulent pas voir nos dirigeants. Ils considèrent, les Français, que plutôt que de leur demander en permanence des efforts, il faut faire des efforts spectaculaires sur l'immigration, il faut faire des efforts sur l'Union européenne, il faut mener une vraie politique de lutte contre la fraude, et il faut mener une vraie politique de baisse des dépenses du train de vie de l'État. Voilà.
Je vais vous poser la question dans un instant du 49.3, de la censure, mais puisque vous évoquez la question de l'industrie, deux questions très concrètes, l'une sur ArcelorMittal, l'autre sur Chine. ArcelorMittal, vous avez eu une forme de complicité sur le vote de la nationalisation d'ArcelorMittal, c'est-à-dire que vous avez usé d'une sorte de stratagème qui existe à l'Assemblée nationale et qui est parfaitement légal, c'est que vous êtes sorti de l'hémicycle, vous n'avez donc pas pris part au vote, mais vous avez laissé le vote sur ArcelorMittal passer. On est d'accord, mais... vous n'étiez pas contre la nationalisation, mais vous n'avez pas été jusqu'à franchement le voter.
Ah, non, mais ça n'est pas ça. Nous étions pour un autre dispositif, qui est le dispositif de la Golden Share, c'est-à-dire, en fait, l'État a une part qui lui permet d'impulser la politique de l'entreprise et déterminer
les objectifs. C'est-à-dire pas de nationalisation, mais une part importante.
Voilà, exactement. Mais à partir du moment où nous n'avons pas ça, nous ne nous sommes pas opposés, en réalité, à la nationalisation.
Mais ça veut dire qu'à la fin, vous êtes pour la nationalisation.
Non, mais pourquoi? Parce que si nous n'avons plus d'acier, tous les grands discours qu'on entend de la part de nos dirigeants sur le réarmement de la France, sur le sauvetage de l'automobile, mais ce sont des paroles qui n'auront aucun effet. Nous devons avoir la maîtrise notre
oui, mais vous l'assumez pas complètement.
Et nous ne l'avons pas.
C'est, en fait,
non,
enfin, vous dites,
ça
vous
n'est
que
pas...
vous n'êtes pas
madame,
pour la nationalisation d'ArcelorMittal, mais vous n'êtes pas non plus complètement contre.
Madame, notre position, c'est la Golden Share. C'est notre choix. Si le reste du choix, c'est s'en désintéresser totalement et laisser mourir en réalité la sidérurgie ou nationaliser,
vous préférez...
pour nous, la nationalisation est le moins pire de ce qui peut nous arriver.
Il y a Brandt, là, qui se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Il y a 700 salariés qui sont prêts à reprendre, d'ailleurs, Brandt. Ça sera définitivement tranché par le tribunal de commerce demain. L'État est prêt à mettre 5 millions. Il y a d'autres millions d'un côté, mais il manque 10 millions. Est-ce que vous vous dites qu'il faut que l'État, là-dessus, aille pour mettre de l'argent dans Brandt.
Oui, mais mettre de l'argent, si on ne met pas en place les conditions pour que la concurrence déloyale dont sont victimes nos entreprises cesse, ne sert à rien. Et on va parler de Chine. Moi, j'ai envie de parler de Chine parce que je n'ai jamais vu un exercice d'hypocrisie comme celui auquel j'ai assisté à l'Assemblée nationale.
Je reprécise les choses.
C'est délirant.
Chine dans la tourmente donc depuis trois semaines, ou en tout cas dans le collimateur du gouvernement, qui clairement souhaite sa suspension. Et c'est vendredi que la procédure de suspension engagée par le gouvernement contre Chine sera examinée par le tribunal judiciaire de Paris. Vous êtes pour, vous êtes contre la suspension?
C'est pas le sujet, pas là, madame. Ça fait 25 ans que tous les gens là, qui sont en train de hurler à la mort sur les conséquences de leur propre choix, ont décidé d'ouvrir nos frontières à la Chine et notamment à l'époque aux vêtements chinois. On a dit, vous êtes en train de préparer une catastrophe pour nos entreprises et pour la filière textile. Il a fallu quelques années seulement pour que la filière textile française disparaisse. C'est-à-dire que c'est eux qui étaient pour l'ouverture des frontières. Et nous, quand nous disions qu'il fallait des droits de douane, on nous traitait de tous les noms, on nous disait qu'on allait faire vivre le pays en autarcie, que c'était épouvantable, que ça n'était pas le sens de l'histoire, etc., etc. Bon, ben, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que nous avons été submergés par les vêtements chinois.
Alors maintenant, on fait quoi?
Attendez, parce que moi, je veux que les gens comprennent ce qui s'est passé. Pendant des années, la grande distribution était assez contente de cela, parce qu'en réalité, elles achetaient le t-shirt 50 centimes, elles le revendaient 8 ou 9 euros, et les marges que faisait cette grande distribution étaient considérables. Et à l'époque, je disais et j'écrivais, il y a plus de 15 ans de ça, hein, mais est-ce qu'il y a sur le ticket du t-shirt le prix du chômage que ça engendre en France? Parce que ça change tout au prix définitif.
Donc on a été complices.
Donc non, mais c'est pas ça. C'est que à compter du moment où ces marges sont mises en cause parce que ces énormes producteurs chinois vont vendre directement aux particuliers.
Deviennent eux-mêmes les distributeurs.
Voilà, là tout d'un coup on s'agite. Alors moi je suis pour évidemment la protection de notre marché, je l'ai toujours été. Je suis pour que on mène une guerre à mort aux produits dangereux, je le dis depuis des années, il faut faire respecter nos normes.
Mais ça c'est une question des normes.
Oui, mais c'est un sujet majeur parce que
je vous interrogeais sur la question du commerce.
Mais attendez parce que le gouvernement, que dit-il? Il dit qu'il faut mettre une taxe sur les petits colis, parce que vous comprenez, il y a une partie de ces produits qui sont dangereux. Ok, donc vous allez continuer.
C'est pas exactement ce qu'il dit.
Ça, c'est ce qu'ils disent.
Alors, il dit deux choses. Il dit d'une part, effectivement, qu'il faut davantage vérifier. D'ailleurs, le ministre du Commerce a été lui-même à l'aéroport pour ouvrir les colis, vérifier que c'était aux normes, pas aux normes, etc. Et puis, par ailleurs, il y a cette question, effectivement, de taxer les petits colis. Certains, comme Philippe Juvin, le rapporteur du budget, voulait carrément mettre 50 euros de taxe pour que ce soit totalement dissuasif. On va sans doute retomber autour de 2 euros. Mais il y a la question des normes d'un côté, il y a la question du commerce de l'autre.
Bah, ils ont bien mélangé les choses, je peux vous dire, à l'Assemblée nationale, hein, en nous expliquant que nous serions ceux qui allaient faire s'étouffer les bébés avec les jouets qui ont des petits objets. Moyennant quoi, je leur ai répondu, donc vous allez vous faire étouffer les bébés, mais vous aurez pompé une taxe au passage. Parce que la taxe, évidemment, c'est celle qui vont être payée par les gens qui n'ont plus de pouvoir d'achat. Comprenez ça? C'est-à-dire qu'ils sont responsables de tout du début jusqu'à la fin. Pourquoi les gens ils achètent sur ce type de plateforme? Parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils ne peuvent plus acheter, ils ne peuvent plus se faire de ne serait-ce que de petits plaisirs parce que les salaires ne sont pas suffisants, parce que les impôts sont trop importants.
J'entends parfaitement ces contradictions, Marine Le Pen, mais à la fin, il faut quand même trancher. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous repose la question. Est-ce qu'on taxe les petits colis? J'ai l'impression
que non. Nos frontières. On maîtrise nos frontières.
Est-ce qu'on interdit l'entrée de ces colis?
On arrête de baisser le nombre, par exemple, d'agents de la DGCCRF.
Qui sont
de baisser
qui contrôlent
le
la qualité
nombre
des produits.
De douaniers. Voilà, on arrête de faire cela. Et moi, je vais vous dire...
On ne suspend pas Chine.
Et je vais vous dire, très honnêtement, tant qu'ils ne respectent pas nos normes, si, il faut qu'ils respectent nos normes.
Suspend.
Mais il faudra qu'ils le fassent aussi, madame, dans l'agriculture. Parce que nos agriculteurs aujourd'hui qui sont confrontés à cette difficulté et qui voient arriver sur les étals des marchés des produits qui sont cultivés avec des pesticides ou avec des produits chimiques qui sont interdits chez nous, ils se disent pas, mais il y a une injustice majeure, parce qu'il est évident que lorsqu'on utilise un certain nombre de pesticides, on a une compétitivité meilleure.
Donc vous êtes pour la suspension, pas pour les taxes, parce que vous dites que ce sera payé par les consommateurs qui se tournent vers Chine.
Je suis heureuse de voir que au bout de 30 ans, on s'aperçoit qu'en réalité, le Rassemblement National avait raison de dire que les frontières, c'est un élément de protection. Il ne s'agit pas de les fermer à double tour. Il s'agit, c'est comme la peau, vous voyez. C'est un filtre, en réalité. C'est une barrière qui empêche les choses néfastes de pouvoir entrer.
Vous avez peut-être entendu les propos de Nicolas Dufourcq, qui est le patron de la BPI. Il dit, je le cite, le tsunami chinois détruira toutes les PME industrielles, de la Pologne jusqu'à la Bretagne. Il faut que l'Europe se ferme temporairement le temps de se réarmer.
Oui,
mais vous signez.
Oui, d'accord, mais encore faut-il d'abord se réarmer. Parce que si vous interdisez, si vous voulez, ces importations, dont je tiens à vous dire que tous ces produits-là, dont on critique la qualité, etc., pour l'instant d'ailleurs, parce que moi, la crainte que j'ai, c'est que la Chine augmente la qualité de ses produits comme elle l'a fait
dans d'autres
sujets. Mais tous ces produits-là, ils sont vendus partout. La réalité, madame, ils sont vendus partout. Ils sont vendus dans toutes les chaînes qui existent en France et qui vendent des choses à bas prix. Tout vient de Chine. Voilà. Et je suis pas sûr que le contrôle qualité soit fait. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, j'ai proposé qu'il y ait, qu'on mette en place une responsabilité au dernier vendeur. C'est-à-dire que le dernier vendeur, les enseignes doivent vérifier, doivent apporter aux consommateurs la garantie du respect des normes européennes dans ce qu'ils vendent.
Marine Le Pen, Emmanuel Macron veut une labellisation des médias. Il veut, je cite, que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'ils ont vérifié l'information avec une déontologie dont ils sont garants entre eux. Et hier soir, l'Élysée a publié une vidéo sur laquelle il parle même de fake news qui aurait été propagée non seulement par un certain nombre de médias, mais aussi par des politiques. Ils disent, quand parler de la lutte contre la désinformation suscite la désinformation. Comment vous jugez cette question ?
Bon, d'abord, je trouve cette vidéo indigne. Voilà, parce que ce n'est pas le rôle de la présidence de la République, qui précisément doit être au-dessus des partis et ne doit pas descendre dans l'arène, surtout en s'attaquant directement à plusieurs médias. Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, cette idée de labellisation est évidemment extrêmement dangereuse. Voilà, elle est extrêmement dangereuse. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de maîtriser l'information.
Alors, il dit que ce seraient les journalistes eux-mêmes qui jugeraient leur propre père.
Les journalistes choisis par qui ? Par Emmanuel Macron ? Donc ça revient au même. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de penser qu'il y a des journalistes, que le fait d'être journaliste vous rend intrinsèquement neutre et bienveillant.
Est-ce que ça veut dire Marine Le Pen ?
On sait très bien, par exemple, les problèmes qu'il y a avec le service public. Et c'est si vrai qu'il y a actuellement une commission d'enquête
Quand vous dites les problèmes qu'il y a avec le service public,
un problème de neutralité évidente. Problème évident de neutralité du service public, bien évidemment. Et donc cette commission d'enquête, d'ailleurs, j'en suis convaincu, impulsée par notre ami Éric Ciotti, le démontrera. Le problème, c'est que souvent on dit, mais vous voyez, il y a des télévisions privées aussi qui sont pas neutres. Mais c'est pas le sujet en réalité.
Mais
le sujet, c'est
vous-même
que
vous choisissez
une télévision privée,
les journalistes qui vous interrogent ou pas.
Une télévision privée a le droit de ne pas être neutre. Moi, je considère que l'ARCOM ne devrait surveiller que le service public. Une télévision privée, elle a parfaitement le droit de ne pas être neutre. Mais le service public, lui, qui est payé par l'ensemble des contribuables, ne peut pas choisir un camp politique contre un autre. C'est pas possible. Elle renonce au financement des électeurs qui lui déplaisent.
Donc dans ces cas-là, il faut que ce soit une privatisation des services publics.
Oui, mais de toute façon, moi je suis pour la privatisation pour d'autres raisons que celle-là. Certes, des raisons d'économie, mais aussi parce que ça permettra d'éviter justement que l'on puisse suspecter ou prouver que le service public n'est pas neutre.
Marine Le Pen, les municipales, il y a quand même quelques questions qui se posent autour d'un certain nombre de candidats RN, le candidat en Corse notamment, un ancien nationaliste qui avait été condamné à de la prison pour terrorisme. Je suis quand même surprise, vous aviez tous dit qu'il fallait un casier judiciaire vierge pour être candidat. Est-ce que ce candidat en Corse, vous l'adoubez ?
Je l'ai rencontré. Il est en effet nationaliste. Il a été aspiré en quelque sorte dans une spirale de violence. À l'époque, c'était comme ça. Il avait 18 ans et il a fait sauter la porte d'entrée d'une sous-préfecture. C'est éminemment condamnable. Et il le dit d'ailleurs. Il a fait 8 ans de prison pour cela. Donc là, pour le coup, la condamnation.
Donc il est pardonné.
Pour le coup, la condamnation a été sévère. Il a renoncé à la violence. Il est, je pense, le meilleur porte-parole, d'ailleurs, de cette renonciation à la violence. Il souhaite défendre l'identité corse tout en restant dans la France. C'est un garçon qui mérite d'être connu parce qu'il a des idées qui sont vraiment très solides. Et par conséquent, oui, j'ai donné mon accord à cette candidature.
Fréjus, c'est quoi le problème avec David Rachline ?
Bah, écoutez, il faut lui demander à lui.
Non, mais je vous le demande aussi à vous, parce que, semble-t-il, il n'aura pas l'investiture du parti pour les municipales. Dans le même temps, j'ai encore vérifié ce matin, officiellement, en tout cas sur le site, il est toujours président, vice-président du RN.
Oui, bah, c'est en voie de règlement.
Il ne sera plus vice-président du RN.
En tout cas, moi, je souhaite qu'il ne soit plus vice-président du RN.
Il est viré, David Rachline.
Non, enfin, ça se passe pas comme ça.
Non, mais je veux dire, il ne peut plus prétendre.
Ça se passe pas comme
vous
ça.
Vous avez été déçu.
Il y a un certain nombre de procédures qui doivent avoir lieu.
Bon, il est encombrant aujourd'hui.
Honnêtement, je suis pas du tout sûr que ça passionne les Français, quoi.
Bah, on est au moment des municipales. Oui, David Rachline, vice-président du RN, c'était pas un candidat ou une personnalité très éloignée du cœur du parti, quand même.
Oui, vous avez raison. Mais voilà, la réponse à ces questions-là remplit pas le frigidaire, quoi.
Ça remplit pas le frigidaire, on vient de le remplir là, on vient de parler des taxes et des questions du budget, mais je pense quand même que c'est une question très importante avant Enfin, vous avez l'air de minimiser. Peut-être
non,
qu'il faut
minimiser, mais
enfin,
il était quand même
vice-président du RN.
Il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours et qui permettront d'éclaircir cette situation.
Martine Vassal, la candidate LR à la mairie de Marseille, a laissé la porte ouverte à l'idée d'une alliance. Alors depuis, elle dit, c'est pas exactement ce que j'ai voulu, mais enfin, quand on lui a demandé s'il y aurait une possible alliance de second tour avec le RN, elle n'a pas dit non, elle a dit on verra à ce moment-là. Est-ce que vous seriez prêt à faire une alliance avec Martine Vassal?
Non, mais d'abord, c'est pas à moi de répondre à ça, c'est au candidat de Marseille. Mais ce que je note, c'est que le rejet absurde de toute capacité d'alliance, notamment dans des élections municipales au second tour, par les Républicains, en réalité, est en train de s'effondrer, parce que c'est pas tenable. Voilà, c'est pas tenable parce que les électeurs, les Républicains ne comprennent pas pourquoi leur direction continue à faire élire des LFI plutôt que de faire élire des Rassemblements nationaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on est au bout, en fait, de la logique de ce barrage républicain auquel les LR, qui est tout sauf républicain d'ailleurs, auquel les LR ont participé lors des dernières élections législatives.
Municipales donc, présidentielles. Pourquoi Jordan Bardella serait pas le candidat à la présidentielle? Je veux dire, le candidat, quoi.
Mais il n'y a pas de primaire chez nous, donc les choses sont extrêmement claires. Si je peux être candidate, je le serai. Si je ne peux pas être candidate, et il sera mon Premier ministre, si je ne peux pas être candidate, il le sera.
Voilà. Et si vous pouvez être candidate, pourquoi il ne le serait pas?
Et pourquoi le serait-il et que je ne le serais pas?
Peut-être parce qu'il est en train de devenir quelqu'un de très bien placé. Vous avez peut-être regardé le Figaro ce matin, ce sondage IFOP, je le cite. Le casting présidentiel est encore loin d'être figé, mais à un an et demi du scrutin élyséen, Jordan Bardella apparaît toujours comme un prétendant incontournable. Parmi les possibilités testées, ils ont testé votre candidature et la sienne, mais ils vous devancent.
Oui, mais voyez la force de notre duo, la force démocratique en fait de notre duo, c'est que Jordan Bardella sera le premier ministre à ne pas avoir été nommé, mais à avoir été choisi par les Français. Et moi, je vais vous dire très clairement, je ne peux que me réjouir que la confiance que les Français ont en Jordan Bardella soit aussi solide.
Mais
C'est-à-dire que si ça se trouve, en effet, vous ne serez pas en mesure d'y aller. Non, moi, je ne souhaite rien du tout. Je regarde effectivement les sondages. Et j'ai d'ailleurs posé la même question à Jordan Bardella.
Parce que nous en avons décidé ainsi.
Pourquoi il ne serait que le plan B ? Pourquoi dire aux Français, finalement, vous avez le plan B ?
Parce que nous en avons décidé ainsi.
Mais ça peut changer.
Et je vais vous dire une chose. La manière dont les élites, une partie de la magistrature, les médias, maintenant les instituts de sondage s'y mettent, cherchent à contourner en fait, les Français, pour pouvoir imposer leur vue, choisir les candidats, ça ne fonctionne pas chez nous. Chez nous, c'est nous qui décidons. Vous voyez?
Ah, c'est vous.
Voilà. Non, c'est nous. C'est nous, c'est Jordan et moi qui décidons. Voilà. C'est comme ça. Donc, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous agiter, chercher à créer de la tension ou de la dissension. Il n'y en aura pas. En revanche, vous aurez le choix de faire ça. Avec tous les autres partis, ça marchera très bien.
Je suis quand même surprise que vous vous disiez que les Français puissent se satisfaire d'un plan B.
Je comprends pas.
C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes en train de dire, voilà, c'est moi la candidate, et si je peux pas y aller, vous vous contenterez de Jordan Bardella.
Mais ils se contenteront pas, puisqu'il a une cote de popularité qui est de plus en plus forte, et encore une fois, je m'en réjouis. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'il gêne ceux qui nous combattent, ou ceux qui cherchent à nous affaiblir, c'est que nous avons au Rassemblement National deux personnalités qui ont la confiance des Français. Et ça, ça a l'air de gêner. Bien, c'est comme ça. Et ces deux personnalités, elles vont combattre ensemble. Et si, par une torsion du droit et une torsion de la démocratie, j'étais empêchée d'être candidate, ce qui n'est évidemment ce à quoi je ne me résous pas. Hein. Soyez bien que
vous voulez être candidate, vous espérez être candidate, vous pensez que vous le serez.
Mais je pense surtout que ce serait honteux qu'on m'empêche de l'être. Oui. Et donc, je vais me battre en appel, devant la cour d'appel, et je vais défendre mon innocence, et donc défendre le droit aussi des Français à pouvoir voter pour qui ils le souhaitent.
Mais on a senti, ou en tout cas peut-être j'ai senti, parfois une forme de découragement chez vous.
Oui, enfin, vous savez, ça, j'ai entendu ça 50 fois. J'ai été enterré, je pense, 10 fois dans ma carrière. Je me demande d'ailleurs si au bout de 10 fois, le 11e enterrement est gratuit, peut-être.
Vous enterrez pas, je pense mais le découragement est humain.
Oui, il est sûrement humain. Mais il est pas trop dans mon ADN, moi. Ça ne fait pas partie de mes défauts. Parce qu'en politique, le découragement est un défaut. Il faut être combatif. Il faut être persévérant, parce que c'est ainsi qu'on arrive à défendre son pays et son peuple.
Si vous êtes innocentée, vous serez candidate, c'est sûr.
Sûr.
Sûr et certain.
Sûr et certain.
Il n'est pas question qu'à ce moment-là, vous vous disiez, parce que les choses ont évolué d'ici là, encore une fois, c'est dans longtemps, que finalement, peut-être Jordan Bardella serait un meilleur candidat que vous.
Ça n'est pas notre choix commun.
S'il était un meilleur candidat que vous. Pardon, je vous repose la question, parce que je suis quand même surprise que cette option n'existe pas dans votre esprit.
Ça n'est pas notre choix commun.
Est-ce que ça devient encombrant d'être deux sur la ligne de départ ?
Non, au contraire. C'est une très grande force pour nous d'être deux sur la ligne de départ, parce que croyez-moi, il va y avoir du boulot pour deux, vu la situation catastrophique de notre pays que nous laisse nos prédécesseurs, si tant est que les Français nous fassent cette confiance.
Je rebondis sur un point que vous venez de dire. Vous venez de dire, si je suis la candidate, il sera mon Premier ministre, et vous vantez comme, justement, une force démocratique que d'avoir un Premier ministre choisi. Je vous pose la question à l'inverse. Si toutefois vous ne pouviez pas être candidate et que c'était lui qui était le candidat, alors serait-il dans la même logique sur un ticket, vous comme Premier ministre, lui comme président?
Non, je l'ai dit, je ne souhaite pas, dans ces conditions-là, dans cette hypothèse qui reste hypothétique par définition, être Premier ministre, mais je serai son premier soutien.
Vous serez son premier soutien? Vous pourriez être présidente du parti dans ce cas-là?
J'ai déjà donné, si je puis me permettre.
Ça veut dire que vous partiriez?
Non, je serai son premier soutien. Mais on peut, vous savez, être un soutien, y compris un soutien très très présent et je l'espère utile, sans obligatoirement avoir
un poste.
Quelque chose sur sa carte de visite.
Un dernier mot sur l'agression dont il a été victime. Il a reçu un œuf à Moissac, Jordan Bardella. L'homme sera jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Il a 74 ans. Il avait déjà lancé un œuf sur Éric Zemmour. Est-ce que cet œuf,
c'est grave, c'est très grave, c'est pas grave, je vous ai pas entendu vous exprimer dessus.
Non, mais c'était un symptôme en réalité. C'est un symptôme d'une violence en politique que commence à subir tout le monde et que nous subissons depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que ça dure. Et à l'époque d'ailleurs, ça ne scandalisait personne. Parce que dans notre pays, les gens sont plus scandalisés en fonction de qui vous êtes qu'en fonction de ce qu'on vous a fait. Moi j'ai des milliers d'images de nos militants agressés, les bus attaqués dans les meetings. Et à chaque fois c'est la même chose, c'est l'extrême gauche. Est-ce qu'on va le dire ou est-ce qu'on va pas le dire en fait? De manière quasi systématique, les violences en politique sont le fait de l'extrême gauche. Ce sont eux qui empêchent la tenue des conférences de presse par la violence. Personne d'ailleurs n'en appelle à la liberté de la presse dans ces cas-là. Ce sont eux qui essayent d'empêcher la tenue des meetings. Ce sont eux qui s'introduisent dans les meetings pour y semer la perturbation. Ce sont eux qui font des contre-manifestations en permanence, qui vous empêchent de faire des marchés, etc., etc. Donc, c'est à eux qu'il faut demander des comptes maintenant. Et c'est à eux qu'il faut dire, la violence en politique, c'est non.
Est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur vous-même, Marine Le Pen?
Non, jamais, non.
Donc ni découragé, ni peur.
Oui, non, mais ça aussi, c'est pas trop dans mon ADN.
Non, mais j'imagine que quand vous nous dites que la violence est là depuis 30 ans, qu'elle ne cesse de monter, j'imagine qu'il y a quand même des moments où on s'inquiète.
J'avais 8 ans et j'étais dans mon lit une bombe a explosé et a détruit l'intégralité de l'immeuble dans lequel nous dormions. Donc, bon, voilà, la peur, du coup, s'est évaporée à partir de ce moment-là.
Quand on a vécu ça, on n'a plus peur de rien?
C'est un peu vrai, oui.
Est-ce que les choses se sont quand même dégradées depuis?
Les choses se sont...
Pas au point, je veux dire, non, évidemment, attentat.
Non,
mais est-ce que le climat global vous dites qu'il y a ce dernier symptôme...
Pas pour nous, parce que nous, encore une fois, nous avons été traités de manière un peu particulière depuis 30 ans, mais de manière générale en politique, il y a un climat de violence qui s'installe, et il y a aussi, et c'est... aussi grave, je crois, en tout cas presque aussi grave, un climat d'acceptation de cette violence, de justification de cette violence.
Et moi, quand j'entends
des journalistes, des éditorialistes parfois, ou des responsables politiques venir justifier la violence au motif qu'elle tombe sur leurs adversaires, je suis scandalisé. Parce que, je le répète ici, je l'ai déjà dit devant vous, quand on a des principes, on ne les adapte pas en fonction de la personne qui peut en bénéficier. Les principes qu'on réclame pour soi-même, on les accepte.
Vous les défendriez?
On les défend, évidemment.
Aussi pour des élus d'extrême gauche dont vous venez de parler.
Des adversaires, bien évidemment.
Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à mes questions
Merci
ce matin.
Merci de votre invitation.
Sur RMC et BFM TV, il est 8h47. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Et tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Marine Le Pen, la vraie, est restée avec nous. Rebonjour Marine Le Pen. Et elle était donc avec nous ce matin, elle est restée dans ce studio. Christine Kelly, notre consoeur de CNews, tenait à être là.
Bonjour Marine Le Pen. Après cette interview au cordeau, corsée et exigeante de ma collègue Apolline de Malherbe, je vous propose de revenir dans un univers plus confortable, plus cosy, plus ouaté, au sein du spa Christine Kelly.
C'est doudou.
Où, après un gommage de votre inéligibilité à base d'huile de fleur de karité, nous vous interrogerons tout en douceur, en respectant bien sûr votre épiderme, pour vous demander comment allez-vous, Marine Le Pen? Et ensuite, bien sûr, je vous proposerai de rejoindre en cabine à l'espace manucure ma collègue Laurence Ferrari, qui vous posera une question sans concession. Marine Le Pen, quelle est votre couleur préférée afin de choisir le vernis à ongles à la...
Je vais paraître encore plus méchante. Hein. Madame Le Pen, je vous laisse répondre à Christine Kelly.
Oh, écoutez, ça fait un bien fou. Je remercie Mme Kelly parce que je suis tellement épuisé, pour tout vous dire, Mme Malherbe. Répondre à toutes ces questions, c'est bien gentil, mais ça ne remplit pas le frigidaire.
Voilà. Alors là, j'ai bien compris.
Oui. souviens. Non, non, parce que maintenant qu'on est en antenne, je peux vous le dire, c'est fatigant, fatigant, fatigant. Toutes ces questions sur Jordan, Bardella par-ci, Bardella par-là. Oui, il est populaire, je m'en réjouis. Oui, il est très haut dans les sondages, je m'en réjouis. Ça se voit pas que je suis réjoui. Le premier qui me dit que je suis pas réjoui, il en prend une. Voilà. Bon, et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis coincé. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Quand je dis du bien de Jordan, vous, les journalistes, vous n'êtes pas contents parce que vous n'avez pas votre os à ronger, c'est ça? Hein? Et si je dis la moindre petite chose, ça y est, c'est la meute médiatique qui s'emballe. Hein? Alors, du coup, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, voilà, je souris, je me réjouis, je nie, je fais semblant, je botte en touche, poker face, voilà.
C'est forme de comédie, finalement, ce que vous affichez?
Mais évidemment, parce qu'au fond de moi, je suis verte, qu'est-ce que je vous dis? Ça fait 40 ans que je sème, que je laboure, et pour une fois que ça pousse, et ça pousse très fort, je peux vous dire, avec le sondage, hein, c'est l'eau qui va récolter. Il y a un an, ben, de Malherbe, c'était encore moi la star. Hein? Et aujourd'hui, je fais quoi?
Je précise qu'elle rit.
Je suis réduit à quoi? Faire sa première partie, c'est ça? Hein? Pour essayer de me réconforter, mon entourage me dit: mais c'est pas grave, Marie, c'est pas grave, tu feras toujours Premier ministre. Mais j'en veux pas, moi j'ai rien à foutre d'être Premier ministre, c'est que les emmerdes. Hein? Vous croyez que je rêve de destin Elisabeth Borne et Edith Cresson? Non! Hein? Pardonnez-moi, excusez-moi. Heureusement que j'ai mes chats. Parce qu'avec Echo, moi, j'ai pas besoin de tricher avec eux. C'est avec les animaux qui peuvent vous comprendre. Même si c'est vrai que...
C'est vrai que quoi?
Non, je...
C'est vrai que quoi?
La dernière fois, Jordan est venu prendre un café à la maison. Et il y a Jazz et Chalimard. Oui, c'est mes deux chats préférés. Qui sont venus se frotter contre son pantalon en velours. Même eux, ils sentent que le vent est en train de tourner. Je le sens bien. Ça fait mal.
On va vous laisser reprendre vos esprits, Madame Le Pen. En tout cas, vous avez des amis sur qui compter. Éric Ciotti tenait à vous dire un mot.
Oui, bonjour Marine. J'ai envie de dire bonjour ma reine. Ah. Vous avez vu, hein? Oui, je sais être flatteur. Je voulais t'assurer, puisque nous nous tutoyons dans le privé, là on est dans le privé, je voulais t'assurer de mon soutien après le terrible attentat qui a frappé Jordan. En tant que futur ministre intérieur de Jordan, j'espère qu'on retrouvera rapidement l'œuf qui a lâchement agressé notre futur président. Alors, c'est vrai qu'un portrait robot de l'œuf mis en cause a été diffusé, et je ne sais pas par quel raccourci on est arrivé jusqu'à moi. J'en suis venu être interrogé par les enquêteurs et même soupçonné d'être l'œuf incriminé. C'est totalement désobligeant. Heureusement, au moment de l'attentat, j'avais un alibi. J'étais à Nice en train de crever les pneus de Christian Estrosi.
C'est crédible. Merci, monsieur Ciotti. Robert Ménard nous a rejoint. Bonjour, monsieur Ménard. Vous avez de nouveau installé une crèche de Noël dans votre mairie de Béziers. Bien que vous ayez déjà été condamné à 8 reprises quand même pour cette raison, monsieur Ménard.
Non, mais attends, arrête avec tes monsieur Ménard, Apolline. Non, on se tutoie. C'est franchement, on va se tutoyer. Je tutoie tout le monde. Salut, Marine, tu vas bien? Non, mais on marche sur la tête. Je finis jamais mes phrases. Non, parce que, en fait, on me traite de raciste parce que je fais une crèche dans ma mairie. Non, mais attends, j'ai pas fini ma phrase. Parce que j'ai fait une crèche dans ma mairie. Non, mais moi, raciste, t'as vu la gueule des rois mages? Bon, on voit bien qu'ils viennent pas de chez nous, les rois mages. Et puis, quand même, Joseph et Marie et leur petit bébé, Jésus. C'est quand même des gens. Mais je m'interromps moi-même tout seul, tellement je sais pas. Tellement ma pensée est construite, tu vois. Joseph et Marie, ils viennent de Palestine, donc m'accusez-moi de racine. Franchement, Marine, au moins, à Hénin Beaumont, t'as pas de problème de crèche.
Mais pourquoi?
Mais attends, Apolline, t'as déjà vu des cathos dans le Nord? Non, on va pas se raconter la messe. On n'a jamais vu autant de musulmans que dans sa région. Non, je le sais, je suis allé à Roubaix. Arrête de t'interrompre moi-même. Non, mais j'ai rien contre les gens là-bas. Là-bas, c'est le charme du Maghreb, tu vois. Bon, sauf qu'il n'y a pas le charme, il y a juste le Maghreb. Non, le Nord-Pas-de-Calais, tu vois. Non, mais je résume, mais si je suis caricatural. Non, mais je t'explique. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est l'Algérie avec les températures de l'Ukraine. J'ai pas raison. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Nicolas Coquelou et Marine Le Pen qui restent dans ce studio.